18h-20h,
Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 18-20. Alors je le dis à chaque fois, mais truc de dingue, je le pense à chaque fois. Au menu de ce samedi, 2 heures d'infos avec 2 grands journaux complets à 18h et 20h, mais également du sport, il y a du foot, du rugby et même du biathlon. Les médias avec Françoise Laborde qui lance une grande initiative pour faire de la place aux femmes et une planche apéro simplissime, je ne vous dis que ça. Et des dossiers, plus d'1 million d'Algériens dans les rues hier, c'est un record, pour protester encore et toujours contre une 5e candidature du président Bouteflika. Et en France également, la mobilisation s'organise. Nous vous dirons comment et pourquoi, avec notamment l'un des co-organisateurs de Manif à Paris et une jeune franco-algérienne qui était le 22 février à la grande manifestation d'Alger. Et puis une fois n'est pas coutume, on va parler de cinéma avec le blues des scénaristes français. Être scénariste, disait Bill Wilder, c'est préparer le lit où les autres vont ensuite faire l'amour. En France, c'est encore pire, ils sont mal considérés, mal payés, mal protégés et pourtant indispensables. Évidemment, nous aurons le témoignage de Juliette Salles, scénariste à succès, notamment pour Belle et Sébastien, 1,7 million d'entrées, excusez du peu. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous. Je rappelle qu'on peut réagir à tout moment en publiant un commentaire sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur Europe1.fr. 18h, bonne fin de journée à tous et avec Europe 1. Et tout de suite, le journal François Claus, Philippe Vandel.
Bonsoir François.
Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et tous.
Alors au sommaire de votre journal ce soir.
C'est une double marche blanche qui prend une dimension singulière au lendemain du 8 mars. Plusieurs centaines de personnes manifestent là où elle a été abattue, là où elle est née, pour rendre hommage à Julie, 34 ans. Cette jeune femme abattue par son mari dimanche dernier, par son ex-compagnon dimanche dernier. C'est le 30e féminicide en France depuis le début de l'année. On pensait que les jonquilles allaient supplanter les gilets en ce début de printemps, mais non, le dernier carré des résistants est là, dans la rue du Puy-en-Velay à Paris. Ils veulent maintenir la pression jusqu'au grand débat, mais on sent l'essoufflement à fleur de peau. Une baisse inexorable de l'audience pour TF1 et les Enfoirés, mais du côté des Restos du Cœur, on n'est pas trop inquiet. Le spectacle, avec quelques belles pépites, devrait se vendre en CD et en DVD. Et si on changeait le nom de l'aéroport d'Orly ? Non, je ne vais pas vous en dire plus. Proposition assez saugrenue qui émane du grand débat, on en parlera à la fin du journal. Du sport bien sûr, Fourcade, pas de médaille d'or, mais du bronze pour la France. Et Lyon, à la mi-temps, mène 1-0 à Strasbourg à 3 jours de son match contre Barcelone. Et puis on parlera de la météo à la fin du journal. On va dire que c'est doux comme un début de printemps, mais gris comme une fin d'hiver. Attention au vent demain dans le Nord.
Europe 1.
Plusieurs centaines de personnes rendent hommage en ce samedi à Julie.
Julie avec une double marche blanche, là où elle fut abattue samedi dernier, à l'Île-Rousse en Corse, là où elle est née à Vers-sur-Marne, en Seine-et-Marne. Plusieurs centaines de personnes, entre colère et émotion, pour rendre hommage à cette jeune femme qui avait porté plainte à 5 reprises contre son ex-compagnon pour des menaces, pour essayer de se protéger. Elle n'a pas été entendue, elle a succombé sous les balles de son mari. Et il y avait beaucoup de monde, pour ne pas oublier Julie, du côté de Vers-sur-Marne.
Oui, ils étaient près de 500 à marcher en silence dans les rues de la ville natale de la jeune femme. En tête, son amie Céline, qui porte un t-shirt à l'effigie de Julie. Au téléphone, elle lui avait confié quelques jours avant le drame sa peur de mourir.
Elle se sentait en danger. Ce qu'elle m'avait confié, c'est qu'un jour un drame arriverait. Où je suis très en colère, c'est que son conjoint avait une détention de port d'armes. Et que je pense que quand on porte plainte pour des violences conjugales, on aurait dû lui enlever son arme.
Puis la foule s'arrête dans un parc où Julie avait l'habitude de jouer. Enfant, sa cousine Caroline allume une bougie et prend la parole, émue aux larmes.
Ça fait chaud au cœur de vous voir tout cela. Et j'espère qu'elle reposera en paix et qu'on sera là pour eux, pour s'occuper de ses enfants. Merci.
La comédienne Muriel Robin est là, en tête de cortège. Elle dénonce un manque d'écoute et d'action de la part des autorités.
Il faut que tout se mette en place. Donc là, ce n'est pas le cas. Des gendarmes qui savaient qu'il y avait une arme, ils le savaient. Il faut que quand une femme vient porter plainte, le cauchemar s'arrête. Moi, je préfère dans chaque commissariat une petite pièce en velours avec une femme gentille qui la prenne dans ses bras et déjà qui lui dise « c'est fini, ma chérie, c'est fini ».
Les parents de Julie n'étaient pas là. Ils se sont rendus auprès de leurs petits-enfants en Corse où une marche blanche était organisée au même moment.
Un reportage signé Mathieu Bock et l'ex-compagnon de Julie, un homme âgé de 42 ans, s'était spontanément présenté devant les gendarmes.
17e samedi consécutif de mobilisation des Gilets jaunes.
Ils veulent maintenir la pression jusqu'à la fin du grand débat. On dénombrait à 14h quelques 7000 manifestants en France. Et pourtant, Justin Morin, vous qui êtes sur les Champs-Élysées, eh bien, on a le sentiment que dans ce dernier carré de résistants, c'est clairement l'essoufflement qu'on ressent à fleur de peau.
Oui, effectivement, ce n'est pas la foule des grands jours ici sur les Champs-Élysées. En fait, le gros des troupes est concentré sur le haut de l'avenue, bloqué par une ceinture de camions de gendarmerie. Et là, c'est vrai que tout juste, hein, les gendarmes remontent l'avenue et ça commence un peu à se tendre. Hein. On sent que c'est bientôt l'heure de la dispersion et on sent quand même un peu de tension avec ce cordon de gendarmes qui remonte cette avenue, suivi par forcément énormément de camions de force de l'ordre. Les gilets jaunes tentent donc d'occuper l'espace, mais les rangs sont quand même très clairsemés. Michael, qui a inscrit toutes les dates de manifestation sur son gilet jaune, le constate un peu amèrement.
Franchement, ça a été statique. Il y a eu une manif qui est partie de son côté, il y a une autre partie qui est restée statique. Je reste sur ma faim. Ça manque d'énergie, ça manque de souffle. Franchement, je suis assez déçu là, de ce rassemblement.
Alors à part en haut des Champs-Élysées, comme je vous le disais, où les forces de l'ordre ont utilisé quelques grenades lacrymogènes pour repousser les manifestants, les gilets jaunes marchent paisiblement sur l'avenue. Les gendarmes mobiles, je vous le disais, commencent à remonter. Là, c'est vrai qu'on sent que c'est un peu la cohue tout en haut de ces Champs-Élysées. Il y a quelques canons à eau qui commencent à éclater pour essayer de disperser la foule. Fabien, lui, il est venu d'Evreux pour manifester. Il est rentré plus tôt que prévu. Il affirme qu'il ne lâche rien, même s'il reconnaît une forme de lassitude.
La lassitude et puis la fatigue, parce que ça fait très longtemps maintenant, ça fait presque 4 mois maintenant qu'on est sur le terrain, donc je veux dire au bout d'un moment, et quand on voit que le gouvernement en plus ne réagit pas, enfin il nous a donné quelques petites pincettes au mois de décembre, à part la répression c'est tout ce qu'on a eu.
Alors il y a quand même l'espoir d'une reprise du mouvement la semaine prochaine, les vacances seront terminées, le grand débat aussi, ce sera donc selon eux le bon moment pour se faire réentendre.
Justin Morin en direct des Champs-Élysées au Puy-en-Velay en Auvergne. On craignait beaucoup d'affrontements. C'est là où la préfecture avait été brûlée le 1er décembre dernier. Ouais. Rémi Pierre, notre correspondant, nous signale qu'il y a 2500 manifestants. Les rideaux sont baissés, la plupart des commerces, mais il n'y a pas d'incident pour le moment. Les Enfoirés, moins d'audience sur TF1 hier, même si 9 millions de téléspectateurs, presque, c'est un très beau chiffre.
C'est énorme,
aujourd'hui.
Ouais.
Il y en avait 12 millions il y a 4 ans. On ne compte pas le replay, qui est une nouvelle tendance de la télévision, mais il n'y a pas trop d'inquiétude.
Pardonnez-moi, il n'y aura pas de replay, puisque justement, pour obliger les gens à acheter
le DVD
du concert
et le CD.
Donc, il n'y aura pas de replay.
Et c'est donc l'espoir, justement, de la part du président des Enfoirés, que de vendre beaucoup de CD et DVD dans un spectacle qui a quelques pépites pour compenser cette baisse d'audience et permettre de boucler un budget qui offrira 8 millions de repas aux plus nécessiteux. C'est ce qu'a confié Patrice Blanc à Mathieu Bock.
L'an dernier, en tout cas, le DVD et le CD, c'était extrêmement bien vendu. Hein, c'était resté en tête des ventes pendant plusieurs semaines. Donc, on espère qu'il en sera de même cette année, avec des points importants comme le retour des inconnus, comme la présence de Didier Deschamps et de Kylian Mbappé, le retour de Florent Pagny aussi. Ça faisait très longtemps qu'il n'était pas revenu dans le spectacle. Et puis, des nouveaux qui peuvent attirer également.
Voilà ce que disait le président des Enfoirés, des Restos du Cœur, Patrice Blanc.
Après la pause, comment exister entre le président Macron et Marine Le Pen ? Laurent Wauquiez publie une tribune dans Le Monde.
18h09, la suite du journal, François Claus, Philippe Vandel.
Une semaine après la lettre d'Emmanuel Macron à tous les électeurs européens, Laurent Wauquiez répond.
Avec des mots assez forts, une tribune publiée sur lemonde.fr. Il reproche au président de la République son approche binaire qui met en danger notre pays et l'Europe. Au-delà de ses critiques, bonjour Jean-Rémy Baudouin du service politique d'Europe 1.
Bonjour François, bonjour à tous.
On l'a compris, Laurent Wauquiez a besoin d'exister.
Oui François, et le chemin en fait il n'est pas simple pour Laurent Wauquiez. Le patron des Républicains doit trouver une place entre effectivement Macron et Le Pen. Pour Laurent Wauquiez, cette élection fin mai ne peut se résumer à une lutte entre, je cite, progressistes et populistes. Il fustige donc un choix binaire dont en fait il est exclu. Selon lui, il existe un autre chemin. Il écrit par exemple « La seule réponse qu'on apporte aux Français, c'est soit plus de l'Europe dont vous ne voulez pas, soit plus d'Europe du tout ». Fin de citation. Le patron de la droite française propose ainsi de créer des blocs de coopération en fonction des sujets sur lesquels les pays voudraient travailler. Il veut réduire les compétences de la Commission européenne. Il exclut par ailleurs tout nouvel élargissement de l'Union. Wauquiez et les Républicains à la traîne de deux listes qui s'annoncent très puissantes. La République En Marche d'un côté, le Rassemblement National au coude à coude dans les sondages. La liste LR menée par François-Xavier Bellamy arrive en troisième position dans les sondages avec moins de 15% des intentions de vote.
Merci beaucoup Jean-Rémy Baudeau. J'avais écorché votre nom avec toutes mes excuses du service politique d'Europe 1. Allez Philippe, vous avez promis au début du journal, ils sont rebaptisés Orly.
Ah ben oui,
vous
mais
avez
comment ?
Une petite idée ?
Aucune.
C'est un chanteur très populaire.
Alors Johnny Hallyday ?
Eh oui,
non, c'est pas possible.
Johnny Hallyday.
Mais
si je vous assure, au moment où Le Parisien, nos confrères, annonce qu'il a vendu 2 700 000 albums, eh bien, Si, ça émane du grand débat. Écoutez par exemple ce fan que Marion Jort a réussi à joindre cet après-midi.
Pour tout fan, ce serait un moment d'émotion. Il ne faut pas oublier qu'en 1996, il y a plus de 5000 fans qui sont partis sur des avions qui se nommaient tous d'un titre de chanson de Johnny pour aller l'applaudir à Las Vegas, par exemple. Donc, ça fait un peu... Voilà, il y a aussi une histoire des fans de Johnny avec l'aviation, puisqu'ils l'ont suivi pour son rêve américain à Las Vegas. C'est quand même fort. De toute façon, Johnny était un homme de voyage, c'était un homme qui voyageait de par le monde, donc... Effectivement, ce ne serait pas du tout incongru qu'un aéroport se nomme Johnny Hallyday.
Alors, pas incongru, c'est ce que dit ce fan aéroport Johnny
Hallyday. T'imagines le pilote qui dit « je me suis posé sur Johnny, c'était glissant
». Vous savez, il y a deux aéroports au monde qui portent un nom de chanteur, vous les connaissez ?
Pas du tout, je connais juste Charles de Gaulle qui ne chantait pas.
Nouvelle-Orléans, Louis Armstrong.
Et le second ?
Liverpool.
Les Beatles. John Lennon.
Aéroport John Lennon. Allez, pour faire la transition avec le foot, il y a un aéroport qui porte un nom de footballeur.
Allez, je ne sais pas.
Si, c'est à Madère. L'aéroport, vous atterrissez sur Ronaldo. Pour de vrai.
C'est pas vrai. Cristiano Ronaldo, c'était le journal de François Claus qui n'a pas encore d'aéroport. Peut-être une piste d'hélicoptère. Merci beaucoup, François.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo, Philippe.
Oui, beaucoup d'instabilité, effectivement, ce dimanche dans notre ciel, en Bretagne, de la Vendée aux Ardennes, aux côtes de la Manche. Les pluies du matin seront remplacées par un temps instable avec éclaircies et averses en alternance et surtout du vent en rafale à 130 km/h sur les caps et côtes exposées de la Manche jusqu'à 120 en Nord Picardie. Du sud-ouest, des Charentes à l'Alsace, aux Alpes, en passant par le Massif central, il pleuvra toute la journée aussi. Il va tomber l'équivalent de 3 semaines de pluie en 24 heures. Des Vosges, au nord des Alpes, où il neige d'ailleurs abondamment sur les Savoies au-dessus de 1800 mètres. Du piémont pyrénéen aux régions méditerranéennes, le temps est plus lumineux, malgré un ciel de plus en plus voilé là aussi. Mistral et Tramontane se renforcent pour atteindre 90 km/h dans l'après-midi. Les températures entre 12 à Saint-Brieuc et 23 à Nîmes.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Donc je répète, trois départements, le Pas-de-Calais, le Nord et la Somme, en vigilance orange, vent violent, à partir de 10h demain.
Le journal des sports.
Avec vous, le journal des sports, Cyril de la Morinerie, bonsoir. Bonsoir, je vous entendais pas, c'est mieux avec un micro.
Ce micro ne marche pas, donc je prends celui-là, je me déplace à gauche. Bonjour à tous.
Exactement, et ça se passe comme ça au foot quand ça rentre pas par la droite, on passe par la gauche. Et justement, c'est la 28e journée de Ligue 1, à 4 jours de son déplacement à Barcelone en Ligue des Champions. L'Olympique Lyonnais, l'OL, se déplace à Strasbourg, c'est en ce moment.
Oui, c'est en ce moment, et les Lyonnais qui restent sur deux succès consécutifs en Ligue 1 sont en Alsace où ils affrontent une équipe strasbourgeoise en difficulté depuis quelques semaines. Patrick Muller, c'est l'Olympique Lyonnais qui domine cette rencontre.
Ah, effectivement, ils mènent 2 à 0 les hommes de Bruno Genesio, et scénario idéal, on a envie de dire, avec une ouverture du score précoce dès la deuxième minute, signé Moussa Dembélé, avec une erreur défensive de la part de Strasbourg, une passe mal appuyée de Koné, le défenseur central, et dès la reprise, peu après, aux alentours de la 50e, eh bien, un pénalty obtenu par Aouar dans la surface de réparation, donc une faute concédée par la défense de Strasbourg. Et qui est là pour le transformer? Eh bien, c'est le même Moussa Dembélé, 2 à 0 donc pour les Lyonnais, alors que l'on joue la 55e minute à la Méno. Ça sent bon pour l'OL.
Patrick Muller, donc on retrouvera effectivement l'Olympique Lyonnais mercredi. Ce sera le 8e de finale retour de Ligue des Champions à Barcelone, 0-0 à l'aller. Sachez que Marcelo s'est blessé. C'est le défenseur central qui s'est blessé derrière une cuisse lors de cette rencontre face à Strasbourg.
Et puis je reste dans le football, puisque ce soir il y aura le multiplex d'Europe 1 animé par Lionel Rosso dès 20h.
Avec Amiens qui reçoit Nîmes, Monaco en regain de forme accueille Bordeaux. Et puis le Stade de Reims qui reste sur une série de 11 matchs sans défaite, se déplace à Dijon en Ligue 2. Lens se relance donc, puisqu'ils sont quatrième désormais après leur victoire, les Lensois, contre Auxerre 2-0. Puis à l'étranger, petite sensation en Allemagne, le Borussia Dortmund, qui était en tête de la Bundesliga depuis 6 mois, vient d'être détrôné de sa première place. Dortmund s'est bien imposé, victoire 3-1 contre Stuttgart. Mais le rival historique, le Bayern Munich, a étrié 6-0 Wolfsburg, si bien que les Bavarois prennent la tête du championnat grâce à une meilleure différence de but.
On va passer du foot au biathlon avec les mondiaux c'est en Suède, je vous laisse dire la ville.
Eh bien, à Östersund, mais je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation, on va demander à Axel May. Le sprint masculin qui vient de se terminer est première médaille dans ces mondiaux pour l'équipe de France, mais elle n'est pas pour Martin Foucade. Axel May, vous êtes notre envoyé spécial.
Oui, à Ostersund, on dit précisément. Eh bien non, c'est Quentin Fillon Maillet, déjà vainqueur de deux succès en Coupe du Monde à cette saison, qui s'est imposé. Il remporte le bronze sur le sprint. C'est Johannes Bø, le Norvégien, qui était le grandissime favori, qui gagne devant un Russe. Et puis Martin Fourcade a fait sixième derrière un autre Français, Simon Détieux. Autrement dit, Fourcade est placé demain pour la poursuite, mais pas de médaille effectivement pour le roi Fourcade lors de ces mondiaux pour l'instant.
Merci Axel May. Demain, ce sera la poursuite féminine.
En bref, du rugby, le tournoi des 6 nations.
Le Pays de Galles s'impose en Écosse 18-11. C'est la 13e victoire consécutive des Gallois, plus que jamais en course pour le Grand Chelem. Et puis du cyclisme pour terminer, à la veille du départ du Paris-Nice, Julien Alaphilippe a remporté à Sienne l'Estrade Bianche. C'est la première fois qu'il participait à cette épreuve qui, comme son nom l'indique, se déroule en Italie.
Et c'était le journal des sports de Cyril de la Morinerie. À tout à l'heure, Cyril, pour votre journal des sports après 19h.
Europe 1.
L'Algérie se soulève, même en dehors de ses frontières. Dans les rues d'Alger, les cortèges grossissent, mais en France également, la diaspora se mobilise. Les mots d'ordre, jeunesse, féminisme et réseaux sociaux. Je reçois dans un instant deux instigateurs des manifestations françaises anti-Bouteflika. À tout de suite.
Jusqu'à 20h, vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Philippe Vandel. Et à 18h19, eh bien on va parler géopolitique, Philippe.
Plus d'un million d'Algériens dans les rues hier. Le chiffre est donné par le grand quotidien El Watan et c'est en record. Les manifestants et les manifestantes, car l'affluence est mixte, il faut le souligner, protestent encore et toujours contre une cinquième candidature du président Bouteflika. Il y a également des manifestations des Algériens de France hier à Paris au Trocadéro et une nouvelle manifestation est annoncée demain, place de la République à Paris. Bonsoir, chère Yann Bekti.
Bonsoir.
Vous avez 24 ans, vous habitez Paris, vous êtes franco-algérienne, étudiante à l'école des hautes études en sciences sociales. Exactement. Et vous avez fondé avec d'autres le collectif de soutien et de vigilance au mouvement du 22 février en Algérie. Bonsoir, Samir Mellal.
Bonsoir.
Vous avez 30 ans, vous êtes né en Algérie, vous avez fait vos études, vous habitez en France depuis 6 ans, vous êtes chargé de projet dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Je vais commencer par vous, Chariane Bekti. Vous étiez le 22 février à la grande manifestation d'Alger à Alger. Quel était le profil des manifestants? Quelle était l'ambiance?
Alors effectivement, j'étais à la manifestation ce 22 février. Je pense que comme toute personne étant présente ce jour-là, on a tous été extrêmement surpris de voir le monde qui se rassemblait peu à peu à Alger. Et tout ceci s'est fait autour de beaucoup de joie, de bonne humeur, de chants, sous le soleil, un magnifique soleil algérien. Et au fur et à mesure, on a vu les femmes, les jeunes femmes, les grands-mères accompagner et se rajouter au cortège avec les hommes qui étaient certes là au début. Ouais. Mais au final, c'était un cortège extrêmement mixte, extrêmement joyeux et qui ne cessait de crier la contestation du pouvoir et du système.
Et je vois le sourire sur votre visage. Quelle est la part des réseaux sociaux dans cette mobilisation en Algérie et même en France ?
Une très très grande part. Je pense qu'elle est indispensable. Mais ce qui est intéressant, c'est que les réseaux sociaux sont un outil pour que les gens puissent se rassembler à l'extérieur. C'est vraiment là où ça change.
Ils sont verrouillés par le pouvoir ou ils sont libres, les réseaux sociaux en Algérie ?
On a vu des déconnexions du réseau, mais c'est habituel. Mais pour le moment, j'ai l'impression que c'est plutôt ouvert.
Je ne sais pas si vous avez vu la dernière nouvelle de l'après-midi en provenance d'Alger. Les vacances universitaires sont avancées 10 jours. Est-ce que vous pensez, je me tourne vers votre voisin, est-ce que vous pensez que ça va suffire à démobiliser les manifestants ?
En fait, effectivement, on a entendu la nouvelle cet après-midi, mais je pense effectivement que le pouvoir en place vit ses derniers instants. Le peuple algérien est mobilisé vraiment derrière cette cause en disant qu'on ne veut pas de ce cinquième mandat, on ne veut pas de ce système, ouais, et qu'il faut une vraie alternative. Il faut une période de transition pour qu'on puisse aller vers un état de droit, un état de justice sociale qui va permettre effectivement le développement de notre pays.
Chariane Bekti, vous le disiez, c'était très pacifiste. Et ce qui frappe, vu d'ici, surtout nous qui avons vu des semaines et des samedis de manifestations de gilets jaunes avec le cortège de violence, c'est qu'il y a très peu de violence, même si hier soir, il y a eu quelques échauffourées en fin de soirée. Comment vous expliquez qu'il y ait si peu de violence alors qu'il y a quand même des millions de personnes dans la rue ?
À mon sens, je pense que la clé de ce pacifisme est surtout due à la jeunesse, qui est quand même prépondérante.
Ah bon ?
Oui, qui constitue près de 70% de la population.
Je me permets de vous interrompre, parce qu'en général, quand il y a des violences, on dit que c'est à cause des jeunes. Et donc ça fait plaisir d'entendre cette explication.
Je pense que les jeunes ont été largement sous-estimés et que justement, là, ils démontrent qu'ils ont compris à quel point être pacifique est important, parce que ça permet de signer la sortie de cette décennie noire qui a donné naissance à tout ce système et ce régime. Ça permet de garantir l'absolue légitimité de ce mouvement et ça permet d'inclure tout le monde.
Samir Mella, vous dire quelque chose?
Oui, effectivement, je pense que les Algériennes et Algériens ont vécu beaucoup de violences ces dernières années et personne ne veut aller vers ce scénario. Personne ne souhaite se retrouver effectivement dans une période comme ce qu'on a vécu pendant la décennie noire.
Alors, je l'ai dit, il y a beaucoup de femmes dans les manifestations, presque à parts égales avec les hommes. Shariane Bekti, quel signe vous voyez là?
Moi, je vois que finalement, la jeunesse, comme le peuple algérien, a compris que certes, l'Algérie a été libérée en 62, mais qu'en 2019, il y a la libération du peuple par le peuple et que celle-ci se fait évidemment par la libération des femmes. Donc c'est vraiment indispensable.
Oui, mais si on va faire un parallèle avec le printemps arabe, on n'a pas vu ça en Libye ou en Égypte ou dans d'autres pays.
C'est dû à la spécificité du contexte algérien.
Exactement. Ouais. Disons qu'en Algérie, il y a eu un printemps le 5 octobre 88. Ouais. Et que derrière, il s'est passé ce qui s'est passé avec la décennie noire. Absolument. Et que cette prise de conscience populaire du peuple algérien aussi vient à la suite de tout ce qu'on a vécu, en fait.
Le Monde rapporte que certaines femmes manifestent avec un voile, mais c'est rare, d'autres têtes nues, avec des slogans façon MLF. Il y a une jeune femme qui avait une pancarte qui disait « Le clan Boutef, c'est Bouteflika, le clan Boutef n'aura même pas notre soutien gorge. » Alors, maintenant, on est en France. Ouais. Samir Mellal, vous êtes l'un des quatre fondateurs du collectif Debout l'Algérie. Vous avez réussi à fédérer les associations de la diaspora algérienne en faveur des rassemblements à Paris et vous appelez à manifester demain, place de la République, à 14h30. Avec quel mot d'ordre?
Toujours être unis, être rassemblés le maximum de personnes autour de cette cause, tous les Algériens et Algériennes, mais aussi les amis d'Algérie.
Non, mais quel sera le mot d'ordre? Bouteflika dehors?
Non, système dehors, en vrai.
Système dehors. Quel sera le slogan? Alors, je vais le dire autrement.
En fait, il y a eu plusieurs slogans pendant toutes les manifs en disant on a peur de rien, on veut un changement, on veut un état de droit, on veut une justice sociale, on veut une période de transition. Et on veut y contribuer en tant que citoyen actif.
Ça allait être ma question. Qu'est-ce que vous attendez du pouvoir? Est-ce que vous attendez le départ de Bouteflika et des élections sans lui? Ou alors une remise à plat du système politique, voire de la Constitution? Question à tous les deux.
Pour moi, si vraiment les personnes qui restent aujourd'hui au pouvoir, parce que de plus en plus, beaucoup de gens se désolidarisent aussi de Bouteflika, même les soutiens qui étaient avec lui hier se tournent contre lui. Pour moi, s'ils sont encore intelligents, c'est d'organiser cette période de transition. C'est vraiment de permettre ce passage vers un état de droit en toute sérénité.
Est-ce que le pouvoir est attentif à ce qui se passe à Paris à cause du poids des 815 000 Algériens de France, ou est-ce accessoire pour lui?
Visiblement, le pouvoir ne me paraît même pas attentif à ce que le peuple dit en Algérie. Donc, très certainement non, mais il faut maintenir le soutien à l'image des différents collectifs, Debout l'Algérie, CSVM, 22 février. Il faut continuer à soutenir et à appeler ce que scande l'ensemble de la population, qui est d'accueillir une seconde république.
Oui, dites. Allez-y.
Et puis, juste pour rappeler un peu l'histoire de Debout l'Algérie, ça a commencé par un appel sur Facebook, un événement qui a été lancé par un jeune étudiant et puis qui a trouvé... en fait, on s'est retrouvé avec 10 000 participants du jour au lendemain et c'est juste hallucinant de se dire comment on arrive aujourd'hui à mobiliser, effectivement, vous parlez des réseaux sociaux, comment c'est devenu un outil de mobilisation sur une cause comme... effectivement, la période de transition en Algérie.
Voilà, je vais dire la manifestation, si vous souhaitez y aller, que vous soyez algérien ou non, c'est à 14h30, place de la République à Paris. Merci beaucoup, Shariane Bekti.
Merci
beaucoup, et Samir Mellal, d'avoir été avec nous. Oui, Damo, il me reste une seconde.
Oui, pour dire qu'il y a d'autres manifs dans d'autres villes en France, à Metz, à Marseille. Et partout, il faut juste se renseigner autour des personnes qui travaillent avec la communauté algérienne.
Renseignez-vous, et c'est la première fois que je vois des militants qui viennent ici avec un si beau sourire. Merci
oui,
d'avoir
absolument.
Été avec nous en direct sur Europe 1.
Europe 1.
Ce sont les chevilles ouvrières du cinéma. Sans eux et elles, pas d'histoire, pas d'intérêt, pas de film. Aussi indispensables soient-ils, pourquoi sont-ils mal payés? Pourquoi les oublie-t-on dans les festivals et même parfois au générique? Juliette Salles, scénariste entre autres du film Belle et Sébastien, nous emmène derrière l'écran dans un instant.
Vous écoutez Philippe Bondel, c'est votre grand journal du soir et vous êtes bien sur Europe 1, il est 18h29.
Et à 7h, c'est le rappel des titres avec Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Participation légèrement en hausse pour le 17e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. 7000 manifestants recensés partout en France à 14h selon le ministère de l'Intérieur. 1400 de plus que la semaine dernière à la même heure. Mobilisation à Paris et en province avec une manifestation interrégionale au Puy-en-Velay en Haute-Loire. Et pour cet acte 17, ce sont les Gilets roses, les assistantes maternelles qui se sont joints au défilé de 35 villes pour protester contre la réforme de l'assurance chômage voulue par le gouvernement. Près de 4000 personnes ont défilé aujourd'hui en Seine-et-Marne et en Haute-Corse en mémoire de Julie, cette jeune femme de 34 ans tuée dimanche dernier par son ancien compagnon. Deux marches blanches ont été organisées. Muriel Robin a participé à celle en région parisienne. Une requête pour placer Abdelaziz Bouteflika sous curatelle, elle a été déposée devant un tribunal suisse au lendemain des gigantesques manifestations en Algérie pour s'opposer à un possible cinquième mandat du président sortant.
Et c'était le journal de Sophie Tussaud. Non, c'était le rappel des titres de Sophie. On vous retrouve tout à l'heure pour votre journal complet. Il sera 19h.
Augmentez votre Europe 1. Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
Et la météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Demain à 10h, trois départements vont entrer en vigilance orange au vent violent, le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Et partout ailleurs, le temps ne s'arrangera pas.
Pas vraiment Philippe, parce qu'on a droit encore à un passage pluvieux du nord vers le sud, c'était prévu. Les pluies du matin vont toucher les régions situées au nord de la Loire jusqu'à l'Alsace, celles de l'après-midi, ce sont les mêmes pluies d'ailleurs qui poursuivent leur chemin, les Pyrénées, le Massif central, l'Alsace toujours, la Franche-Comté et le nord des Alpes. Les précipitations s'atténueront tout de même au fil de la journée, la limite pluie-neige va s'abaisser de 2000 à 1000 mètres au passage de cette dégradation. Après les pluies, le temps va s'améliorer sur une large moitié nord-ouest avec le retour des éclaircies entre les averses tout de même, notamment près de la Manche. Les conditions resteront plus agréables en allant vers la Méditerranée sous un soleil toujours voilé. Le vent se remet à souffler, 70-80 km/h en rafale le long de la Manche et de la Méditerranée et 100 sur les caps Corse. Le matin, il fera entre 4 et 10 degrés en général, quelques degrés de plus sur la Méditerranée et en journée, toujours 11 à 15 sur la moitié nord, 15 à 19 au sud et jusqu'à 21 autour du pourtour méditerranéen. Exactement les mêmes températures qu'aujourd'hui, quoique légèrement au-dessus.
Quoique, mon micro, ça, il est ouvert. Merci beaucoup Valérie Darmon.
Votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1. Et maintenant, Philippe Bondel, on va parler cinéma.
Oui, je vais commencer par une citation du grand Billy Wilder. Être scénariste, c'est préparer le lit où les autres vont ensuite faire l'amour. Et Billy Wilder savait de quoi il parlait, puisqu'avant d'être le réalisateur oscarisé, il a été scénariste. Bonsoir Juliette Salles.
Bonsoir.
Vous êtes scénariste, notamment co-scénariste avec Fabien Suarez de Belle et Sébastien. 1,7 million d'entrées pour le dernier, le 3, c'est pas rien. Quelques jours après les Oscars et les Césars, une vingtaine de scénaristes français publient un livre collectif qui dénonce leur situation. Ça s'appelle « Scénariste de cinéma, un autoportrait ». C'est chez Anne Carrière. Ils sont partis d'un questionnaire auprès d'une soixantaine de vos collègues, dont vous-même. Et ce qu'on lit est édifiant. Dans quelles conditions travaillent les scénaristes en France ?
Eh ben, les conditions aujourd'hui, en fait, la situation des scénaristes aujourd'hui en France, elle est très paradoxale parce que le scénario est très important. Parce que c'est un objet sur lequel le casting, les financements vont se déterminer. Et paradoxalement, la situation des scénaristes, elle est plutôt pas très bonne parce qu'ils sont souvent, surtout les jeunes, pas très bien rémunérés. Et souvent, on a l'impression pas assez reconnus pour le travail qu'ils font.
Ah ben, je vais parler de la reconnaissance. Il y a l'estime que la profession vous porte ou plutôt ne vous porte pas. Je voudrais que vous racontiez l'anecdote du Festival de cinéma de Rome qui voulait recevoir quelqu'un de l'équipe du film Belle et Sébastien.
Alors... C'est une anecdote qui est effectivement intéressante. En fait, c'est les équipes d'Unifrance qui nous l'ont raconté. Unifrance, c'est l'organisme qui promeut le cinéma français à l'international. Et donc, ils organisent ce Festival de Rome. Ils organisent une projection du film avec le distributeur italien. Donc, ils essayent de faire venir un peu des participants du film. Et le réalisateur ne pouvait pas, les comédiens ne pouvaient pas. Et en fait, ils ont eu l'idée de faire venir un chien, un patou. qui est effectivement le héros du film, le chien.
Le chien à la place du scénariste.
Alors, pas à la place. Ce qui est intéressant, c'est en fait ce qui est encore plus, à mon avis, intéressant, c'est qu'ils n'avaient même pas pensé à faire venir les scénaristes. C'est nous qui leur avons dit, mais plutôt ou avec le chien, vous auriez pu nous inviter, parce que nous, on aurait répondu aux interviews des journalistes et on avait des trucs à dire sur le film, sur l'histoire du film, voilà.
Alors vous dites que c'est pas très bien payé, combien ça rapporte un scénario ?
Alors je pense que c'est très variable parce que ça dépend beaucoup de l'expérience et puis des gens qui ont fait plus ou moins d'entrées avec leur scénario. Je crois qu'aujourd'hui la fourchette elle est entre 15 000 et 45 000 euros par an, ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui est surtout compliqué en fait, c'est que l'écriture scénaristique c'est une écriture qui dure longtemps. Ça peut durer des mois, voire des années. Et que du coup, quand on n'est pas assez payé, comme c'est le cas de beaucoup de jeunes scénaristes, hein, encore une fois, moi c'est moins mon cas, on est obligé de prendre plusieurs scénarios et de les écrire en même temps, ce qui évidemment, la qualité, elle en pâtit au bout d'un moment.
Au lieu d'être concentré sur le même sujet, en France, le scénario représente seulement 3% du budget d'un film. Aux États-Unis, c'est 10%, c'est le triple. Et du coup, il y a même des scénaristes qui ont des boulots à côté.
Il y a des scénaristes qui ont des boulots à côté.
J'ai découvert ça dans le livre. Il y en a qui sont livreurs, barmen, veilleurs de nuit.
Alors, c'est le cas notamment. Je pense qu'il y a une vraie difficulté d'entrer dans ce métier. Je pense que c'est très vrai pour les jeunes scénaristes parce qu'ils sont obligés d'écrire gratuitement en fait, avant pour faire leurs preuves, avant d'être enfin payés. Et ça, je pense que c'est un problème parce que les gens aujourd'hui, les jeunes qui peuvent se permettre d'écrire gratuitement, c'est évidemment des gens de classe sociale relativement aisée. Et du coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui auraient un grand talent de scénariste qui sont empêchés, en fait, et qui sont évidemment les gens les plus pauvres.
Quand un film fonctionne, marche bien, fait des entrées en salle, combien touchez-vous de droits d'auteur ?
Ah, ça, c'est très variable. Ça dépend, je pense que c'est très variable. Ça dépend des entrées en salle, ça dépend aussi des ventes à l'étranger.
D'accord.
Du film, voilà.
Mais vous êtes indexé, vos gains, vos revenus sont indexés sur les ventes pas du tout ?
Alors, si, c'est forcément indexé. Après ça dépend un peu du contrat que vous avez négocié et donc du pourcentage que vous touchez. Évidemment, plus vous êtes expérimenté, plus vous avez un agent qui vous aide et plus vous négociez bien ce genre de choses. Ce à quoi on voudrait vraiment arriver, c'est que cette profession elle soit plus reconnue financièrement, effectivement, et qu'il y ait un peu systématiquement une indexation sur le budget du film.
Ouais.
Et puis, ce qui va avec cette reconnaissance financière, il y a la reconnaissance un peu symbolique. Ce que je vous disais là, sur l'anecdote du Festival de Rome, qui est encore une fois qui est amusante.
Elle est à la fois amusante et tragique.
Elle est un peu tragique, mais c'est surtout que je pense que tous les scénaristes de cinéma que vous rencontrerez vous diront la même. Et j'ai un autre exemple pour vous, c'est que le CNC vient de sortir une enquête, une étude sur la parité au cinéma, ce qui est super. Donc il parle de la place des femmes, c'est vraiment très intéressant. Ça parle de tous les métiers du cinéma, tous. Script, réalisatrice évidemment, comédien, maquilleur, chef opérateur. Il n'y a pas le mot de scénariste dans cette étude. Voilà, c'est comme s'il y avait un espèce d'oubli du métier.
Et
voilà.
Alors même, attendez, j'ai lu dans le livre que depuis 92, donc depuis un quart de siècle, le Festival de Cannes n'a pas convié l'ombre d'un scénariste à siéger dans aucun des jurys. Donc il y a 4 ou 5 jurys avec 20 ou 25 jurés, j'ai calculé, ça en fait même pas 1 sur 3000 jurés. Comment expliquez-vous cela ?
Alors, on explique cela, en fait, la réponse, je crois, des responsables du Festival de Cannes, c'est qu'en fait, ils ont convié, pour être membre du jury, des réalisateurs qui sont aussi scénaristes. Donc, en fait, voilà, ce que vous dites, en fait, ce que vous relevez, c'est qu'il n'y a pas eu de scénariste pur scénariste membre du jury, effectivement.
Quel statut social avez-vous ? Est-ce que vous pouvez bénéficier, par exemple, du statut qui est décrié, parce que parfois on le juge avantageux, des intermittents du spectacle ?
Alors non, on n'est pas du tout intermittent. Donc on ne profite, on n'a ni chômage, ni congé payé. Donc on a un statut qui est relativement précaire, qui encore une fois, le problème de ce statut, c'est qu'il oblige un peu à accumuler le nombre d'écritures. Et évidemment, au bout d'un moment, la qualité en pâtit.
Et la télévision, est-ce que ça paye mieux ? Est-ce qu'il y a des meilleures conditions de travail ?
Alors la télévision, je connais moins bien. Je pense que ça paye. Je pense que la situation des scénaristes est un peu différente à la télévision parce que c'est pas tout à fait la même. C'est une industrie de flux, la télévision. Le cinéma, c'est une industrie de prototypes. C'est comme si on construisait des fusées. Voilà.
Je vais parler de vous, Juliette Salle, pour ma dernière question. Sur quoi travaillez-vous ? Sur quoi écrivez-vous en ce moment ?
Alors on finit d'écrire avec mon co-auteur Fabien Suarez une adaptation d'une pièce de théâtre avec un réalisateur qui s'appelle Olivier Babinet, qui avait fait Swagger,
ouais.
et avec des producteurs qui sont Haut et Court, Ouais. Et c'est une super belle aventure, voilà. Donc on espère que ça va se tourner.
Ben nous aussi on espère, puisque dans votre métier on ne sait jamais si ça va se faire. Et parfois on travaille pour pas grand chose. Merci beaucoup Juliette Salle, je rappelle que vous êtes scénariste. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Merci beaucoup Europe 1.
Dans un instant, ce sera le replay télé d'Evaroc. Et puis, comme c'est presque l'heure de l'apéro, ce sera l'heure de la planche apéro. Quoi de plus simplissime que la recette de Simplissime? Dans un instant, je reçois son auteur, le chef Jean-François Mallet.
18h41, on retrouve maintenant Philippe Vandel et Evaroc pour le replay télé.
Bonsoir Evaroc.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors, c'est l'heure de votre séance replay. Trois programmes diffusés cette semaine à la télévision et qui méritent notre attention. Qu'avez-vous sélectionné?
Deux documentaires et un événement. Mardi, Arte diffusait une enquête édifiante sur des religieuses victime d'abus sexuels par des hommes d'église. Un documentaire qui a nécessité 2 ans de recherche en Europe, mais aussi au Canada et en Afrique. Et les témoignages, Philippe, de ces femmes sont bouleversants. Comme celui de Michel France. Pendant 25 ans, cette religieuse française a été abusée par 2 prêtres frères. Et elle raconte la perversité de ces hommes.
Son explication, sa justification, c'était qu'il voulait me faire sentir l'amour de Jésus pour moi, parce qu'il savait, il sentait, il avait éprouvé dans la prière que j'en avais besoin et que c'était ce que Jésus voulait pour moi à travers lui. Il était, c'est une expression qu'il utilisait beaucoup, il était le petit instrument de Jésus.
Alors, scène incroyable après ce témoignage, une messe de réparation. Oui, de réparation. Dans l'assistance des victimes de ces 2 prêtres et leurs proches pour une cérémonie au cours de laquelle la hiérarchie va présenter ses excuses. Et c'est tout. Pas de poursuite judiciaire, ni au sein de l'Église, ni de la part de la justice civile. Vous découvrirez également comment en Afrique, certaines religieuses sont traitées telles des esclaves sexuelles. Et quand l'une d'entre elles tombe enceinte, eh bien les prêtres n'hésitent pas à les faire avorter. Religieuse abusée, l'autre scandale de l'Église est à voir ou à revoir sur arte.tv.
Alors Reva, vous avez choisi un autre documentaire maintenant, mais dans un genre très différent.
Ah, effectivement Philippe, un peu de sourire. Canal+ proposait mercredi la première diffusion d'un documentaire intitulé « Ni juge, ni soumise ». Un film récompensé notamment par un César il y a quelques jours et réalisé par l'équipe d'une émission télé mythique, l'équipe de Striptease. Les réalisateurs Jean Libon et Yves Inan suivent une juge belge, Anne Grudves, qui reprend une enquête sur l'assassinat de 2 prostituées dans le centre de Bruxelles.
Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec vous? J'ai fait le calcul. En prison, ça coûte 150 euros par jour. C'est une fortune. En fait, ce qu'il y a de moins cher, c'est que vous mouriez tout de suite.
Je n'en ai peut-être pas l'air, mais j'ai suivi des cours de self-défense et je suis parfaitement capable de vous plaquer toute seule au sol. Si vous en souhaitez la démonstration,
c'est quand même une femme, madame la présidente.
Je le fais immédiatement.
Mais non, je ne peux pas.
Sauf que vous allez vous retrouver d'abord assommé. Parce que je vais d'abord vous assommer, ensuite vous plaquer au sol.
Mais attendez, c'est une juge qui parle, c'est pas un film.
C'est une vraie juge, c'est pas un film, c'est pas du cinéma comme ils disent dans la bande-annonce de ce documentaire. C'est une tranche de vie exceptionnelle qui est portée par ce personnage, donc cette juge, sortie tout droit d'un film de Jacques Tati, un univers où les éléments quand même, il faut le préciser, les éléments les plus sordides côtoient l'humour, parce qu'on est quand même dans une enquête policière, avec la méthode de Striptease, à savoir pas de commentaires ni interview face caméra. Alors c'est à revoir sur mycanal.fr pour les abonnés ou à louer en VOD sur le même site.
Et puis vous aimez ça, et moi
oui.
Aussi, finir avec de la musique.
Oui, et de la solidarité. Hier soir, TF1 proposait le programme qui sera sans doute encore une des meilleures audiences télé de l'année, le concert des Enfoirés. Pour célébrer les 30 ans des Restos du Cœur, il fallait un spectacle grandiose. Et bien c'est le cas avec toute la troupe des Enfoirés et des petits nouveaux. Malik Bentala, Claudio Capeo, la présence aussi de Kylian Mbappé. Et puis un événement, le retour d'un trio qui nous manque.
Bah, je suis là surtout parce que je suis un enfoiré, déjà.
Non, pardon, excuse-moi Bernard, moi je suis un enfoiré.
Oui, non, mais sans sérieux, mais l'enfoiré c'est surtout moi.
Bon, salut les enfoirés. Tu. Enfin, bien. Bon, on y va?
Bon, enfoiré.
Salut l'enfoiré.
Et j'ai reconnu les voix, les inconnus.
Exactement, les inconnus. Alors, ne soyez pas étonnés, vous n'allez pas trouver le replay de cette soirée sur le site de TF1 et je vous explique pourquoi. Si vous avez loupé la diffusion hier soir ou si vous avez envie de voir et revoir ce spectacle de qualité, en fait, il vaut mieux acheter le DVD et le CD qui sont sortis depuis ce matin dans les bacs, comme on dit. Chaque vente, c'est 17 repas pour les Restos du Cœur. Donc n'oubliez pas, les restos comptent sur vous et c'est pour ça que je voulais vous en parler aussi.
Merci beaucoup,
c'était
Eva.
C'était une petite escroquerie, je le reconnais.
Une chronique replay qui se termine sans replay. J'aime beaucoup, à samedi prochain.
Bonne fin de journée avec Europe 1 et avec Philippe Vandel. Il est 18h45, Philippe.
L'heure de l'apéro, donc bonsoir Jean-François Mallet.
Bonsoir.
Comment ne pas vous connaître, ou plutôt comment ne pas connaître vos livres? Ça s'appelle Simplissime. Ce sont des livres carrés, lourds, avec plein de pages, avec plein de photos, avec très peu d'ingrédients, et avec les recettes à faire les plus simples du monde. À la base, vous n'êtes pas, pour qu'on raconte votre histoire, vous n'êtes pas cuisinier.
Ah si, à la base, je suis chef de cuisine, mais ça fait tellement longtemps. Mais je suis devenu après reporter photographe.
Alors que dans ma tête, vous étiez un photographe qui a fait de la cuisine. Non, vous étiez un cuisinier qui est devenu photographe, qui est redevenu faiseur de livres de cuisine.
Exactement, c'est d'un coup, j'ai fait l'école supérieure de cuisine à Ferrandi.
Ouais.
J'ai été chef de cuisine dans des grands restaurants. Voilà. Et ensuite, j'ai lié mes deux passions, la photographie et la cuisine. Et je suis devenu reporter photographe pour des magazines. Et j'étais un des premiers à faire du reportage sur la cuisine de rue. Tout ça.
Mais alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans le métier que vous faites, dans le projet que vous avez, c'est que les recettes sont très, très simples à faire, simplissimes. Et ça tombe bien parce qu'ici, c'est à l'apéro. Les gens n'ont pas le temps. Les gens sont très pressés. Qu'est-ce que vous avez apporté? Qu'est-ce que vous pouvez nous faire là maintenant, devant nous, dans ce studio?
Alors Philippe, ce que je me suis dit, quand on va à l'apéro, parfois on n'a pas le temps de repasser chez soi ou de faire la cuisine pour l'apéro, parce qu'on a envie de vite d'aller à l'apéro. Donc je vous ai amené une recette où on peut passer chez le marchand.
Ouais.
Ça s'appelle l'apéro crevette, j'appelle ça moi.
Alors allez-y.
Je fais ça souvent, c'est des chips de crevettes, un peu de tarama, des crevettes cuites et de la menthe. Vous mettez un petit peu de tarama sur une chips de crevette, un morceau de crevette cuite et en morceaux, de la menthe, un peu de tarama, un peu de menthe, et vous faites ça au dernier moment. Vous donnez tout de suite à manger ce petit canapé, qui est tout croustillant et tout moelleux. Et voilà, je vous en fais.
Et moi, je
vous
goûte.
Voilà, comme je l'ai amené, on va le faire. Hop.
Et ça y est, c'est fait.
Voilà, et ça y est, c'est fait, Philippe.
C'est assez extraordinaire parce que vous le faites devant moi, alors j'arrive pas à savoir si ça va être bon ou pas, je vais vous le dire. Regarde, déjà, est-ce que c'est croustillant? Le croustillant. C'est vachement bon. Mais sauf qu'il faut avoir des bons fournisseurs.
Alors voilà, après, cette recette, il faut mieux acheter des bonnes chips de crevettes, du bon tarama et des bonnes crevettes. Après, oui, on peut échanger. Vous pouvez mettre une bonne feuille de basilic. Vous pouvez mettre un petit morceau de jambon cru avec autre chose, de la samoussa ou je ne sais pas quoi. Mais,
le jambon cru, ça ne va pas du tout avec les crevettes.
Mais si, avec la chips, ça va aller.
Ah bon,
je vous promets, oui.
Jambon cru, chips de crevettes,
ouais,
ça va bien.
C'est très bon, ouais.
Alors maintenant, je crains le pire pour ma question suivante et rituelle. Avec ça, on boit quoi?
Ah, alors ce qui est génial avec ça, c'est qu'on peut boire un peu de tout. Parce que le problème du canapé apéritif ou la petite recette apéritif, souvent les gens disent on va se faire une petite coupe de champagne pour l'apéritif. Et en général, pour manger avec du champagne, c'est très compliqué. Alors que la crevette, ça marche à tous les coups. Le champagne, ça marche. Avec de la bière légère, blanche, light, ça marche. Avec un vin blanc, c'est délicieux. Un vin rouge frais, il y a de la menthe, c'est super. C'est pour ça que je vous ai amené ça aussi. Je me suis dit, ça va à peu près avec tout.
Si j'ai bien compris, ça va avec tout sauf de l'eau.
Ouais. De l'eau de mer. De l'eau de mer, peut-être.
Je ne m'attendais pas à cette réponse. À consommer avec modération. Jean-François Mallet, ça s'appelle Simplissime chez Hachette Cuisine. Et je dois dire qu'il y a. Vous cassez un tout petit peu votre code, puisqu'il y a une série de 4 petits livres qui sortent. Les poêlées complètes les plus faciles du monde, les quiches et cakes les plus faciles du monde, les plats complets au micro-ondes, les recettes bio les plus faciles du monde. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ces crevettes et ces petites chips.
Merci Philippe. Europe
1. Françoise Laborde a été présentatrice des JT de la 2 et également membre du CSA. Elle a fondé l'association pour les femmes dans les médias et depuis 7 ans, elle se bat pour promouvoir l'égalité réelle entre les femmes et les hommes devant et derrière les caméras. Et ce qu'on prenait pour une lubie devient désormais crucial en cette époque de MeToo et autres ligues du LOL. Elle a fait signer une charte à toutes les grandes chaînes et toutes les grosses radios, dont la nôtre. Elle sera avec nous dans un instant.
Et maintenant, à 18h50, Philippe Bandel, vous recevez Françoise Laborde.
Bonsoir Françoise Laborde.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, ex-présentatrice des JT de France 2, ex-membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et fondatrice de l'association pour les femmes dans les médias, 7 ans d'existence. C'est quoi les objectifs, le but de l'association ?
Le but de l'association, c'est que les femmes existent davantage dans les médias, devant et derrière les caméras, et qu'on arrive à une sorte de parité, et aussi à une égalité salariale qui est la mère de toutes les batailles, si je puis dire.
Alors, votre association a écrit une charte de bonne conduite contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans les professions liées aux médias. À qui s'adresse cette charte ?
À tout le monde. Aux salariés, aux patrons, à tout le monde. Alors, c'est les patrons qui vont signer,
c'est évidemment. C'est les patrons qui ont
signé. Les patronnes qui vont signer, qui sont les responsables et qui vont être chargés de mettre cette charte en application dans leurs entreprises respectives. Et l'idée de cette charte, c'est d'être faire de la prévention. On a beaucoup parlé de tous les mouvements, MeToo, Balance ton porc, récemment la Ligue du LOL, etc. Et au fond, cette charte sur laquelle on travaille déjà depuis un an, elle arrive à point nommé parce que nous, notre démarche, c'est de dire on n'est pas là pour balancer, pour dénoncer, mais on est là pour faire de la prévention. Et on accorde à nos camarades masculins le crédit de penser que parfois, ils ne se rendent pas compte que la camaraderie chahuteuse peut parfois basculer dans le harcèlement. Voilà.
C'est quoi la camaraderie chahuteuse ? Il y a une dessinatrice qui a mis en scène plein de petites scénettes
que les femmes ne veulent plus tolérer en entreprise. Par exemple, ce jean, il te fait un beau cul, je comprends. Mais par exemple, dire à une femme « t'as changé de parfum », ça ne se dit pas non plus dans une rédac.
C'est-à-dire que Sarah, c'est une jeune dessinatrice très talentueuse qui a un blog qui s'appelle Clémence et le pire. Et à travers les anecdotes que nous lui avons racontées, elle a donc créé ses dessins et qui sont toutes des situations vécues.
Oui.
C'est-à-dire le type qui a dans son bureau, derrière son dos, des femmes à poil et qui trouve ça très rigolo et qui n'imagine pas que ça peut mettre mal à l'aise.
J'ai bien compris. Mais dire à une femme qu'elle a un parfum qui nous plaît, c'est du harcèlement. Ou c'est un début de harcèlement.
Tout est affaire de circonstances.
Expliquez.
Si c'est Alain Delon à 30 ans qui dit « tu as un parfum qui me plaît, ta robe te va très bien », on est contente. Si c'est un chef de service bedonnant qui a 60 ans et qui vous dit ça le soir dans l'ascenseur au moment où on va dans le parking, on est moins contente. Et si c'est le vieil éclairagiste un peu adipeux qui traîne et qui a les mains baladeuses, ça ne plaît pas du tout. Donc encore une fois, l'idée c'est de dire « prenez conscience du fait d'abord que tout le monde n'est pas dans la séduction, qu'on peut ne pas avoir envie et qu'à un moment donné, les choses qui vous font rigoler nous font moins rigoler.
Vous vous rendez compte que même ce que vous venez de dire, Françoise Laborde, peut être pris comme quelque chose de sexiste si on retourne la chose. Et si c'était un homme qui qualifiait les femmes de bedonnantes, de vieilles et d'adipeuses, on dirait ce type est
non,
sexiste.
Mais pas du tout.
Ce
que je dis, ce que je dis moi, c'est qu'on a le droit d'être vieux, bedonnant, adipeux, ce qui est mon cas. Donc je l'assume parfaitement. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, il ne me viendrait pas à l'idée de draguer un jeune homme de 25 ans parce que je suis une vieille gloire de la télévision et que je pense que j'ai gardé le même sexe à pile qu'à 25 ans. J'ai conscience du fait que j'ai dépassé la 65 et que donc, voilà, il y a des espoirs qui ne s'offrent plus à moi.
Qui a signé votre charte ?
Tous les patrons, patronnes, toutes les patronnes et tous les patrons de...
Je vais le dire, tout le monde a signé, TF1, France Télé, Canal+, Arte, M6, le groupe Next Radio, c'est-à-dire BFM TV, RMC, parce qu'il y a aussi les radios, Lagardère Active, donc Europe 1, RTL et Radio France. Est-ce qu'il y a des gens qui ont osé ne pas signer ?
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, ça n'est qu'une première vague. On a déjà des candidats à la signature pour la deuxième, la troisième ou la quatrième vague. Donc oui, ça va continuer. Parce qu'encore une fois, l'idée de dire de façon très sérieuse, il faut que vous preniez conscience qu'il y a un souci aujourd'hui et qu'il faut le prévenir pour éviter justement ce type de comportement. Moi, par exemple, quand j'étais chef de service, jamais je n'ai eu l'idée d'interroger les membres du service que je dirigeais en disant est-ce que... Dans des entretiens individuels, annuels, qui sont obligatoires. Est-ce que vous avez eu des problèmes à un moment donné avec, est-ce qu'il y a des choses qui ne se sont pas bien passées entre femmes et hommes ? C'est une question qu'on ne posait pas. Et je pense que le fait de dire à un moment donné, bah si, il faut mettre ça sur la table pour justement prévenir ce genre d'excès et se rendre compte que parfois, on peut avoir un garçon ou une fille qui est dans une situation un peu compliquée et qui n'ose pas complètement parler, il vaut mieux parler au début que d'attendre que la situation se dégrade.
Dans votre billet de présidente de l'association, Françoise Laborde, vous dénoncez les vexations dont les femmes sont victimes, le sexisme récurrent dans les rédactions. Est-ce que vous-même, vous en avez souffert ?
Oh bah évidemment. En plus, franchement, moi j'ai 65 ans, donc quand je suis arrivée, c'était un univers de garçons.
C'est-à-dire que ça se manifestait comment ?
D'abord, les femmes journalistes ne s'occupaient que des sujets féminins. La santé, la famille, l'éducation et la mode. Il n'y avait pas de journalistes politiques, économiques, sociales. Et puis ensuite, c'était une relation très virile. Moi, j'ai des... Non, je ne peux pas le dire parce que c'est trop vulgaire. Non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire, c'est trop vulgaire. Mais en gros, on vous demandait des... Sur le ton de la rigolade, une gâterie sexuelle devant toute la rédaction pour savoir comment vous réagissez, si vous allez rougir. Au contraire, vous allez avoir un mot d'esprit. Et si on avait un mot d'esprit, c'était très bien, tout le monde rigolait, on disait « elle est formidable, qu'est-ce qu'elle est drôle, etc. » Mais si on n'avait pas le mot d'esprit et la propos, on était un peu ostracisés. Alors, ce qui est intéressant, si je puis dire, c'est qu'à l'époque, c'était assez simple parce que ça se passait à l'intérieur des rédactions et au fond, ça pouvait se régler avec un tiers éventuellement. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu avec la Ligue du LOL, le numérique donne une ampleur tout autre. Et on ne se retrouve pas avec un homme et une femme qui se sont disputés dans une rédaction, mais une femme qui se fait harceler par des centaines de personnes.
Et souvent, très courageusement anonyme.
Exact.
Vous donnez ce chiffre, les femmes représentent 52% de la population en France, mais elles ne sont que 35% à intervenir dans les programmes. Vous liez la parité ?
Mais je pense que l'idée qu'à un moment donné, il y ait autant de femmes que d'hommes ne doit plus choquer personne. On est quand même dans
l'info.
Mais dans tout.
Écoutez,
on est encore dans un pays politique où les partis politiques préfèrent payer des amendes que d'avoir des femmes à parité dans leur liste.
Ça, j'ai bien compris, mais
on ne peut pas nier le fait que la télé reflète la vie. Par exemple, personnellement, mercredi soir, j'ai regardé le foot. PSG Manchester, c'était des mecs. Jeudi soir, un documentaire scientifique sur le Big Bang, sur France 5. Il y avait des gens de la NASA, il n'y avait quasiment que des types. On ne peut pas reprocher à la télévision de filmer
Bien
le
sûr.
Monde et que le monde soit masculin.
Ah mais vous avez absolument raison. La télévision, elle n'est que le reflet de notre société. Et je pense qu'on est dans une société en France qui est encore sexiste et un peu misogyne. Mais regardez, lors des dernières élections, la dernière élection présidentielle, il y a eu un débat dirigé par trois femmes.
Ouais.
Je veux dire, il y a encore cinq ans, ce n'était pas concevable. Et c'était très intéressant parce que c'était un débat politique de grande qualité et personne n'a dit « Ah quoi, comment, il y a trois présentatrices, mais ça ne va pas être sérieux. »
Et il y avait une femme en finale qui a perdu et celle d'avant, qui était une femme en finale, a également perdu. Merci beaucoup Françoise Laborde, fondatrice de l'association pour les femmes dans les médias. Merci d'avoir été avec nous sur Europe.
Merci à vous Philippe.
Dans un instant, le journal de 19h avec Sophie Tussaud, à tout de suite sur Europe 1. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour de l'info et des infos. C'est une agression qui a choqué. Mardi, un détenu radicalisé et sa compagne ont attaqué et grièvement blessé deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe avec un couteau en céramique. Ça aurait pu être Éric Pérez. Il publie un livre document, Maton et fier de l'être. Ce qu'il raconte fait froid dans le dos. Vous entendrez son témoignage en direct dès 19h15. Et puis, ne manquez pas notre demi-heure culturelle avec Mathieu Charrier pour le cinéma, Diane Chénouda et ses expos, Nicolas Carreau et ses choix de romans, et surtout notre invité Jarry, l'humoriste inclassable et toujours pas classé d'ailleurs, qui revient avec un nouveau spectacle au titre à la fois totalement ordinaire et totalement extraordinaire. Titre, oui, titre, c'est le titre. Je vous préviens, c'est complètement déjanté.
Et qu'il soit déjanté ou réfléchi, vos commentaires sont les bienvenus sur les réseaux sociaux. Réagissez à l'actu sur Twitter avec le hashtag Europe 1. 19h, merci d'avoir choisi Europe 1. Le journal, Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 19h.
Les gilets jaunes à nouveau dans les rues de France ce samedi avec une manifestation interrégionale en Haute-Loire, au Puy-en-Velay. Le père Hamel, tué par des djihadistes à Saint-Étienne-du-Rouvray en voie de béatification. Le dossier sera prochainement remis au Vatican. Deux marches blanches en région parisienne et en Corse pour saluer la mémoire de Julie, tuée dimanche dernier par son compagnon. Et puis Barbie fête ses 60 ans, alors cette poupée est-elle un jouet uniquement pour les filles? La réponse en fin de journal.
Europe 1. Les gilets jaunes étaient un peu plus nombreux ce samedi.
Mobilisation effectivement légèrement en hausse pour cet acte 17. 7000 personnes étaient dans la rue à 14h selon le ministère de l'Intérieur. C'est 1400 de plus que la semaine dernière à la même heure. Participation en hausse également à Paris avec 2800 gilets jaunes, deux fois plus que samedi dernier. Et comme chaque samedi, une grande manifestation interrégionale en province. Et aujourd'hui, elle s'est tenue au Puy-en-Velay en Haute-Loire et a rassemblé beaucoup de monde, Rémi Pierre.
Oui, ils étaient au total près de 3000, dont certains venus de loin, comme Nadège. Elle a fait le déplacement avec un petit groupe de gilets jaunes depuis Thonon, en Haute-Savoie. Pas de lassitude, assure-t-elle, et même une motivation intacte.
Ah, elle est toujours là, elle est même renforcée, parce qu'il ne veut pas lâcher, et nous non plus, on ne lâchera rien. Donc on fait masse dans les très grandes manifestations maintenant. Pour contrecarrer ce qui se dit en disant que le mouvement s'épuise, c'est pas vrai.
Même détermination pour Jean qui habite un petit village à 30 km du Puy. Il en est à sa 15e mobilisation et depuis le début du mouvement, rien n'a changé, explique-t-il.
Regardez les carburants, la suppression des écoles, tout ça. Dans la ruralité, il n'y a plus rien, ils font rien pour ça. Les retraites, c'est pareil. Les allocations logement aussi, c'est pareil. Alors qu'il y a des gens qui sont dans la rue, ça ne peut pas faire. Ça n'a pas changé.
Alors pendant 2 heures, le cortège va déambuler pacifiquement avant qu'en fin de journée, des heurts n'éclatent entre des petits groupes de casseurs et les gendarmes. Certains gilets jaunes qui effectuent un sit-in devant la préfecture sont évacués sans ménagement. Comme Isabelle, la soixantaine, elle ne regrette pas ces affrontements.
Parce qu'il y en a marre. S'il n'y a pas de violence, ça ne bougera pas. Parce que faire des manifs gentils, où on chante, où on danse, macaron, comme je l'appelle moi, il s'en fout quoi.
Au final, tout de même une mobilisation plutôt calme avec une seule interpellation survenue en toute fin de manifestation.
Rémi Pierre au Puy-en-Velay pour Europe 1 et une autre couleur était présente dans les manifestations de 35 villes. Aujourd'hui, les gilets roses des assistantes maternelles pour dénoncer la réforme de l'assurance chômage voulue par le gouvernement. 4e jour consécutif de blocage de la prison de Condé-sur-Sarthe après l'agression de deux surveillants par un détenu radicalisé mardi. Une centaine de manifestants s'est à nouveau positionnée devant l'établissement. Dès 5h ce matin, les syndicats rencontreront lundi la direction de l'administration pénitentiaire et jeudi la garde des Sceaux.
Et à ce propos, je recevrai dans quelques minutes un ancien surveillant de prison qui a écrit un livre choc. Tout à fait autre chose, une étape importante vers la béatification du père Hamel.
En 2016, le prêtre était égorgé en son église de Saint-Étienne du Rouvray par deux djihadistes. Le tribunal ecclésiastique vient de boucler son dossier et pour cela, Marion Jort, il a dû réaliser une enquête très minutieuse.
Oui, minutieuse et très complète. Ce dossier se compose d'auditions de témoins de l'attentat, de témoignages de paroissiens ou de sa famille, mais aussi d'articles de presse, d'homélies, de photographies, d'objets lui ayant appartenu et bien sûr des documents d'archives qui ont servi à l'enquête ecclésiastique. Au total, c'est plus de 12 000 pages de dossiers qui tiennent dans trois cartons. Cartons qui ont été scellés ce matin par l'archevêque de Rouen pour la dernière audience de la phase d'instruction. Et c'est un soulagement pour le père Vigouroux qui a mené l'enquête.
Ce jour est un jour symbolique, un jour important, parce qu'on va clôturer tout le processus initié le 20 mai 2017. C'est un jour d'aboutissement, soulagement, d'avoir accompli ce qu'on avait à accomplir. Et en même temps, il y a dans la famille, parmi les amis, il y a encore beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Mais il y a quand même cette espérance qui est là, qu'on va essayer d'aboutir à un beau message. Un message d'amour, de pardon et d'accueil de l'autre.
Ces cartons seront portés à Rome dans un mois par des lycéens direction le Vatican. Et c'est le pape en personne qui rendra son jugement. L'étude du dossier prendra au minimum 2 ans, ce qui est tout de même très rapide. À titre de comparaison, il a fallu 5 siècles à Jeanne d'Arc pour être béatifiée.
Merci Marion Jort. Elle est la 30e victime de féminicide depuis le début de l'année. Julie, 34 ans et mère de 2 enfants, a été tuée dimanche dernier par son ancien compagnon en Corse. 2 marches blanches ont été organisées aujourd'hui en sa mémoire à Lille-Rousse et à Vers-sur-Marne, en Seine-et-Marne, sa ville natale. Julie avait pourtant porté plainte. Maintenant se pose la question du suivi des femmes. Écoutez Anne-Cécile Maillefer, la présidente de la Fondation des femmes présentes dans la marche silencieuse en région parisienne.
Ça y est, les femmes, elles ont le courage de porter plainte. Julie, elle a eu le courage de porter plainte. Elles ont compris, là, les femmes. On sait, maintenant, il y a eu MeToo et balance ton porc, on dit les choses. Maintenant, ce qu'il faut, c'est derrière, comment est-ce qu'on fait pour que quand on porte plainte, ça se passe bien. Et la question des moyens, elle est essentielle. Nous, à la Fondation des femmes, on a fait le travail de budgéter, de savoir combien il faudrait. Il faut 1 milliard, c'est simple. Il faut 1 milliard. Voilà. Alors, combien ça vaut la vie d'une femme? Combien ça vaut la vie de Julie? Voilà. Est-ce que vraiment ça compte? Est-ce que ça compte pour nous? Est-ce que ça compte pour la société ou est-ce qu'on s'en fout? 30 femmes depuis le 1er janvier, l'année dernière c'était 18. Est-ce qu'on s'en fout ou est-ce que ça compte? Et si ça compte, ça compte combien? Moi je pense que la France, elle peut, on peut tous mettre un peu pour faire en sorte qu'il y ait tout ce qu'il faut pour que le jour où la dame, elle est prête à partir, qu'il y ait ce qu'il faut en face pour que ce soit dans de bonnes conditions et qu'elle soit protégée. Parce qu'aujourd'hui, quand elles vont porter plainte, c'est le moment où elles sont le plus en danger de mort. Et on les laisse être en danger de mort et on s'en fout.
Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes, au micro de Mathieu Bock. En Algérie, le pouvoir tente d'endiguer la contestation des étudiants contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Les vacances sont avancées de 11 jours et fermeront les universités, donc fermeront dès demain. Elles seront également, ces vacances, allongées de 10 jours, une mesure après les manifestations massives d'hier dans les grandes villes algériennes.
Europe 1. Dans un instant, on vous parle de la montagne plébiscitée par les Français en février et des 60 ans de la poupée Barbie. Restez avec nous.
Il est 19h07, la suite du journal Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
C'est la fin pour toutes les zones, c'est la fin des vacances d'hiver ce week-end.
Oui, 20% des Français prennent des congés en février. Alors si plusieurs destinations ont été plébiscitées cette année, la montagne reste l'une des préférées, Maud Descamps.
Avec une météo exceptionnelle et un très bon enneigement, les stations de ski ont fait une excellente saison pendant ces vacances d'hiver. Avec un phénomène qui se renforce, les Français partent moins longtemps, on ne réserve plus nécessairement une semaine complète au ski. Et cette année, les réservations de dernière minute ont très bien marché, selon Jean-Marc Silva de France Montagne.
Nos clients sont assez météo-réactifs. On a même des fois des réservations du vendredi pour le lendemain, pour le samedi. Donc c'est un phénomène important. Hein. Et voilà, des fois attendre un peu le dernier moment pour se décider.
Et puis une destination fait son grand retour cette année, l'Égypte, très fortement plébiscitée, mais aussi tout le Maghreb, comme l'observe René-Marc Chicli, président du syndicat des tours opérateurs.
Les grandes destinations de refuge du printemps arabe, c'est-à-dire Grèce, l'Espagne, une partie de l'Italie, ont atteint aujourd'hui un peu leur somme, soit en termes de capacité, soit en termes de prix. Donc les gens ont repris leurs habitudes qu'ils avaient avant de repartir sur les destinations de la Méditerranée.
Autre carton, le Japon, avec un panier moyen pour les Français qui ont choisi cette destination de 4 000 euros.
Maud Descamps.
Elle fête ses 60 ans et elle n'a pas pris une ride.
Oui, alors c'est pas Maud Descamps, c'est la poupée Barbie qui garde toujours sa chevelure blonde, même si elle s'est transformée au fil des années, notamment pour ne plus avoir l'air anorexique. Pour autant, Barbie est-elle un jouet pour filles ? Pierre Herbulot s'est penché sur ce qui crée les stéréotypes chez les enfants.
Quelle que soit sa tenue, son métier ou sa couleur de cheveux, Barbie provoque presque toujours la même réaction chez les garçons.
Je trouve que c'est pour les filles.
Et pourquoi ?
J'en ai aucune idée. Parce que c'est des filles !
Il y a plutôt les couleurs, le rose, le violet.
Pourtant, cette idée qu'il y a des jouets réservés aux filles, elle n'est pas innée. Evelyne, maman d'une petite fille, l'a bien remarqué.
Je voyais qu'à la crèche, les enfants jouaient vraiment au même jeu. Il y a des garçons qui jouent à la poupée, des filles qui jouaient aux voitures, parfois même dans les déguisements, et des garçons qui se déguisent en princesse. Enfin, voilà.
Alors, qui met ces idées dans la tête de nos enfants ? Un peu tout le monde, pour Catherine Monod, spécialiste dans la création des stéréotypes.
C'est un ensemble. La famille, dans les premières années, les enfants sont des vecteurs eux-mêmes dans les cours de récréation et exercent une forte pression qui est alimentée en amont par les médias et par l'industrie du cosmétique, l'industrie du vêtement, du jouet.
Mais les choses évoluent, la preuve par le son avec Baptiste, élève en CE1.
Est-ce que tu as déjà joué toi avec des Barbie ?
Ouais, j'ai déjà travaillé sur l'égalité filles-garçons. Je dirais que c'est plus pour les deux.
À l'école ?
Oui, il n'y a pas longtemps avec ma remplaçante.
L'école reste d'ailleurs, d'après la chercheuse, l'un des meilleurs moyens de combattre ces stéréotypes.
C'était Pierre Herbulot.
Et c'était le journal de Sophie Tussaud. Merci beaucoup Sophie.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcaDB. Plus d'infos sur arcadb.com. ArcaDB vous présente la météo.
Et la météo, c'est évidemment avec vous Valérie Darmon. Demain, les températures montent un petit peu.
Oui, mais le ciel est tellement maussade que le ressenti n'est vraiment pas agréable. Alors le matin, vos thermomètres affichent entre 5 et 8 degrés au nord de la Seine. Il fait plus doux de la Bretagne aux régions méditerranéennes avec 9 à 11. L'après-midi, Météo France annonce 11 à 15 du nord au sud avec des pointes à 22 près de la Méditerranée. Côté ciel, une nouvelle perturbation traverse le pays, sans surprise. Si vous habitez entre la Vendée, les Ardennes, les côtes de la Manche, vous retrouvez quelques éclaircies entrecoupées d'averses au fil de votre journée. Près de la Méditerranée, vous conservez un temps sec et un soleil voilé. Partout ailleurs, c'est triste à souhait. Attention surtout au vent qui souffle assez fort de nouveau sur l'ensemble du pays, notamment si vous habitez entre la Bretagne et le Hauts-de-France avec des rafales à 100 km/h en soirée.
Et j'ajoute que demain, dès 10h, trois départements des Hauts-de-France entrent en vigilance orange au vent violent, le Pas-de-Calais, la Somme et le Nord. Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports avec vous, Cyril de la Morinerie. Bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Et on va commencer par du football. 28e journée de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais qui était très très bien parti. Badaboum s'est fait rattraper par Strasbourg.
À 4 jours du choc de Ligue des Champions, Barça-OL 0-0 au match aller. Les Lyonnais voulaient faire le plein de confiance. Et bien c'est raté effectivement. Alors qu'ils menaient 2-0 à Strasbourg, les Alsaciens ont égalisé, Patrick Muller.
Oui, soirée contrastée pour l'OL avant ce déplacement au Camp Nou. Les Lyonnais ont concédé le nul de partout ici sur la pelouse de Strasbourg, alors que les hommes de Bruno Genesio menaient 2-0 après 50 minutes grâce à un doublé de Moussa Dembélé, début inscrit dès la 3e puis donc à la 50e sur pénalty. Et puis Lyon a reculé et Ajorque s'est réveillé, l'attaquant strasbourgeois, lui aussi auteur d'un doublé en quasiment une minute. Lyon qui perd donc un point et qui ne s'est surtout pas vraiment mis dans les bonnes dispositions avant de prendre la direction de Barcelone. Ce sera ce mercredi soir.
Merci beaucoup Patrick Muller en direct du stade de la Méno à Strasbourg. Ce soir, trois matchs sont au programme du multiplex d'Europe 1 animé par Lionel Rosso dès 20h.
Monaco en regain de forme puisque les Monégasques restent sur 5 matchs sans défaite. Accueille Bordeaux, Amiens, reçoit Nîmes et puis le stade de Reims. 6e de Ligue 1 se déplace en Bourgogne à Dijon en Ligue 2. Lens est au pied du podium 4e après sa victoire contre Auxerre 2-0 à l'étranger maintenant. Un nouveau leader en Allemagne grâce à une meilleure différence de but, le Bayern Munich détrône le Borussia Dortmund. Le Bayern a étrié Wolfsburg 6-0 et puis Dortmund, lui, l'a emporté contre Stuttgart 3-1 en Angleterre. Défaite aujourd'hui des coéquipiers du Goloris Tottenham battu à Southampton 2-1. Et puis surtout en Espagne, on surveille actuellement le FC Barcelone, le prochain adversaire de Lyon. Barcelone qui était mené 1-0 par le Rayo Vallecano vient d'égaliser grâce à piqué un partout après 40 minutes de jeu.
On va passer au biathlon, ça se passe en Suède. Première médaille dans ces mondiaux pour l'équipe de France.
Et ce n'est pas Martin Fourcade qui est monté sur le podium, mais son coéquipier âgé de 26 ans, Quentin Fillon-Maillet, qui décroche la troisième place du 10 km sprint. Course remportée par la star norvégienne Johannes Bø, sa deuxième victoire dans ces mondiaux. Quentin Fillon-Maillet savoure sa belle performance, d'autant que le sprint n'est pas la course où il est le plus à l'aise.
Ouais, c'est le format difficile pour moi, ce sprint, donc je suis vraiment très content de le réussir. Et moi, si j'avais eu à parier sur moi sur une des courses, je l'aurais pas mis sur le sprint. Mais j'ai pas envie de me dire, voilà, c'est parce que j'ai fait une médaille aujourd'hui que ça va faire de super choses demain, mais en général, ça se passe mieux sur une poursuite, donc j'espère que ça se passera mieux.
Martin Fourcade, qui lui était de retour après une pause de 41 jours, termine 6e, nouvelle déception pour le biathlète français aux 5 titres olympiques.
Ski alpin maintenant, au nouveau record pour Michaela Schifrin.
L'américaine qui s'est imposée aujourd'hui dans le slalom de Coupe du Monde en République Tchèque a remporté sa 15e course de l'hiver, 15 victoires dans une même saison. C'est inédit. Chez les hommes, c'est le Norvégien Kristoffersen qui s'est imposé dans l'épreuve du géant.
Et puis on va passer au rugby pour finir avec le tournoi des Six Nations. Avant les hommes qui vont affronter l'Irlande demain, place aux femmes qui jouent ce soir à Dublin.
C'est ça, les Françaises battues par les Anglaises restent encore en course pour remporter le tournoi des Six Nations, mais cela sera difficile. Elles sont deuxièmes à 4 points des Britanniques. L'idée, c'est de continuer à prendre du plaisir, à développer du beau jeu et pourquoi pas s'imposer sans pression. Tout est possible, rappelle l'arrière Jessie Trémoulière.
Je pense que c'est possible, oui. C'est pas... on sait que ça va être difficile, on se déplace en Irlande et peut-être les conditions vont être difficiles pour les deux équipes, mais voilà, c'est... Chaque match, il faut prendre du plaisir, même il faut faire avec les conditions, avec l'équipe qui est en face. Mais voilà, c'est avant tout s'amuser, ça reste du sport, c'est que du sport, c'est de l'amusement avant tout.
Propos recueillis par Simon Rubin, Irlande-France féminin, donc coup d'envoi ce soir à 20h. Sachez que chez les hommes, le Pays de Galles s'est imposé cet après-midi en Écosse 18-11, 13e victoire consécutive des Gallois.
Et donc la 4e dans le tournoi. C'était le journal des sports de Cyril de la Morinerie. Merci beaucoup Cyril. Mon prochain invité a fait 30 ans de prison. Oui, 30 ans en tant que surveillant puis gradé. Il a tout vu, tout entendu de sa carrière. Il en sort un livre qui dresse le portrait d'une administration pénitentiaire à l'agonie, alors que plusieurs prisons sont actuellement bloquées dans le pays après une dramatique agression de cette semaine. Cette semaine, je vais arriver à le dire, à Condé-sur-Sarthe. À tout de suite.
Votre grand journal du soir se poursuit avec Philippe Vandel sur Europe 1. Et maintenant Philippe, vous aviez envie de parler ce soir d'une agression qui a choqué.
Mardi, un détenu radicalisé et sa compagne ont attaqué et grièvement blessé deux surveillants de prison de Condé-sur-Sarthe avec un couteau en céramique. Ils sont ensuite restés retranchés pendant près de 10 heures dans l'unité de vie familiale de la prison. Et depuis cette date, la prison reste bloquée par une centaine de surveillants en colère qui protestent contre leurs conditions de travail et de sécurité. Bonsoir Eric Pérez.
Bonsoir à vous, merci de m'avoir invité.
En 30 ans de carrière, vous avez connu tous les postes de terrain, comme on dit, de l'administration pénitentiaire. Et vous publiez chez Kéro un livre document, le titre « Maton est fier de l'être ». Maton, je précise, c'est en argot le surveillant de prison, le métier des deux collègues à vous qui sont fait agresser. Il y a eu des blocages dans beaucoup de prisons du pays. 4e jour à Condé-sur-Sarthe de blocage encore actuellement. J'imagine que vous comprenez ces blocages. Est-ce que vous les approuvez ?
Je les approuve totalement et je souhaite à mes collègues un bon rétablissement.
Pour quelles raisons ?
Je les approuve parce qu'il y a un manque de sécurité et surtout un manque de personnel. Donc, on ne pouvait pas faire autrement. C'est sûr que ça devait arriver.
Vendredi, les forces de l'ordre sont intervenues à Condé-sur-Sarthe pour acheminer de la nourriture et faire passer des officiers et des élèves surveillants, car il y a une sorte de grève qui ne dit pas son nom. Les surveillants de prison n'ont pas le droit de faire grève.
Les surveillants de prison n'ont pas le droit de faire grève, exactement. Mais là, ils font pas grève, ils sont devant la prison et c'est un mécontentement. Ils empêchent les gens de passer, quoi.
Une rencontre va être prévue lundi entre les organisations syndicales et la direction de l'administration pénitentiaire. Une rencontre de plus où vous attendez vraiment quelque chose de cette rencontre?
Oui, il est temps que ça bouge parce que sur le terrain, c'est pas du tout... Il faudrait que là-haut, nos têtes pensantes pensent vraiment que le personnel pénitentiaire a besoin de soutien. Et le soutien, ils l'ont pas. Donc il faut vraiment que... Ce que j'aimerais dire, c'est même qu'ils mettent l'uniforme pour voir comment ça se passe à l'intérieur.
Il y avait une grande mobilisation, vous en souvenez évidemment, en janvier 2018. 115 centres avaient été bloqués dans toute la France. Des promesses avaient été faites par la ministre, et déjà Nicole Belloubet. Ces promesses ont-elles été tenues?
Une certaines parties, oui, mais l'essentiel, non.
C'est quoi l'essentiel pour vous?
C'est le manque de personnel et la sécurité à l'intérieur de l'établissement.
Tout ce qui s'est passé à Condé-sur-Sarthe, en quelque sorte, est dans votre livre. La compagne du détenu a pu entrer dans la prison avec un couteau en céramique, couteau et matière non détectables par les portiques de sécurité. Or, vous dénoncez le fait qu'il n'y ait plus de fouilles systématiques des visiteurs. Depuis 2009, je précise, depuis Nicolas Sarkozy, c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il faut, selon vous, que ça redevienne obligatoire?
Alors, les visiteurs n'ont jamais été fouillés, ne sont pas fouillés par palpation, ils passent juste sous un portique, donc si ça ne sonne pas, ils passent à l'intérieur de l'établissement.
Comment vous expliquez ça?
C'est pas normal. C'est sûr qu'avec de tels détenus et des profils aussi dangereux, il faudrait que les visiteurs de prison soient fouillés par palpation. Ça, c'est...
Alors Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a déclaré jeudi, je la cite, « Il ne me semble pas pensable que l'on puisse entrer en détention avec des objets qui ne puissent pas être détectés. » Donc de fait, elle est favorable aux fouilles systématiques.
Ok, mais elle sait très bien que les visiteurs de prison sont pas fouillés, donc je vois pas.
Mais si elle dit qu'il lui paraît pas pensable, c'est peut-être qu'elle est pour. Ma question a un peu de malice, j'en conviens, et je veux dire pourquoi, parce que la même Nicole Belloubet s'était opposée en octobre dernier à un amendement qui voulait autoriser la fouille systématique des visiteurs de détenus, car, disait la ministre, contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous trouvez normal que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme qui détermine le droit en France, ou même ça, ça vous pose problème?
Ça pose problème, mais bon, étant donné que la mission pénitentiaire, maintenant, on est au niveau des droits de l'homme, au niveau de la Cour européenne, c'est vrai que là, ça bloque, c'est clair que ça bloque. Mais bon, pour des détenus radicalisés, des détenus vraiment dangereux, je crois qu'il faudrait revoir tout ça, quoi.
Alors, qu'est-ce que vous appelez revoir de votre expérience?
C'est-à-dire que vu la dangerosité de ces détenus-là, on ne peut pas les traiter de la même façon que les autres. Du moment qu'on a des détenus qui sont radicalisés, qui sont prêts à tout, même si les autres sont dangereux, c'est sûr qu'un détenu qui prend 30 ans, mais là, un radicalisé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elle a rentré un couteau, cette dame, donc il ne sonne pas sur le portique. Le détenu à l'intérieur, il a lui confectionné une arme factice. Et donc, c'était pour faire un attentat. Donc, on ne peut pas, avec ce genre de détenus-là, il faut vraiment revoir de A à Z la façon d'opérer, quoi.
Mais alors, ce que vous dites tombe sous le sceau du bon sens. Vous consacrez un chapitre entier sous le titre « Détenus radicalisés, détenus dangereux ». Comment se fait-il, selon vous, qu'il y ait si peu de décisions, de précautions prises?
Je pense que... Je me demande s'ils se rendent vraiment compte de la dangerosité des détenus. Ils pensent que rien ne va se passer, mais en fin de compte, si, ce sont des bombes. Ils le disent. Quand ils sont partis à l'étranger, ils sont revenus en France dans l'esprit de tuer du gardien de prison, de tuer des policiers, de tuer des militaires. Donc, ils sont prêts à tout. Il faut vraiment qu'ils reviennent, qu'ils royent ça.
Mais tout le monde peut entendre ça. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est quand vous avez été confronté à ce genre de difficultés. Le premier chapitre de votre livre, c'est... Vous pensiez même que c'était vos derniers jours. Vous avez eu une agression.
Exactement.
Le gars vous a couché par terre. Il avait une arme qui s'était fabriquée.
Exactement.
Racontez ce qui vous est arrivé.
J'étais... je travaillais aux prisons de Lyon et je rendais service à un collègue de partir du quartier Saint-Paul pour aller au quartier Saint-Joseph. Je me suis retrouvé dans un tunnel, le tunnel qui relie ces deux quartiers. Et donc, je me suis retourné et j'ai un collègue à moi, donc je me demandais qu'est-ce qui se passait, qui accompagnait un détenu. Il m'a dit, je l'emmène au quartier disciplinaire.
Ouais.
Je me suis retourné et au même moment, j'ai vu ce détenu qui se baissait et qui, comme s'il voulait attacher ses lacets. Et ensuite, il m'a sauté dessus. Il avait donc un stylo. Au bout du stylo, il avait une lame de rasoir. Et là, il a commencé à vouloir m'égorger. Le premier qui approche, je le tue. Et donc voilà, quoi.
Alors, je vais revenir au cas de Michael Chiolo, qui est la personne qui a commis l'agression à Condé-sur-Sarthe. Ce n'est pas un détenu ordinaire. Avec un complice, il avait séquestré et tué un homme de 89 ans, un ancien résistant rescapé du camp de concentration de Dachau pour 300 euros. Il a été condamné à 28 ans de réclusion criminelle en 2014. En prison, il s'est radicalisé au point d'être condamné à un an de prison supplémentaire pour apologie d'actes de terrorisme, pour avoir demandé à ses co-détenus de rejouer, de mimer la tuerie du Bataclan. La question que tout le monde se pose vu de l'extérieur, comment se fait-il que cette personne était ensuite considérée comme un détenu lambda?
Voilà, alors moi c'est ce que je me dis aussi. Je me dis, qu'est-ce qu'il faisait un détenu pareil dans un UVF? Parce que les UVF sont faits pour maintenir les liens familiaux et pour...
L'unité de vie familiale,
voilà,
l'UVF. Ouais.
Voilà, et pour la réinsertion des détenus.
Ouais.
Bon, vu le profil, à mon avis, maintien des liens familiaux, c'était plutôt... pour préparer quelque chose, quoi. Donc c'est aberrant, quoi.
Mais on peut dire parfois, on peut penser que les ministres, les politiques sont coupés du monde, mais comment se fait-il que les directeurs de prison ne prennent pas conscience de cet état de choses? Comment ça se passait dans votre carrière quand vous allez voir le patron de l'établissement où vous travaillez pour lui dire tel type ou tel type ou tel type est très dangereux?
Alors, on n'allait pas voir notre patron d'établissement, on faisait remonter les informations par notre hiérarchie.
Ouais.
Bon, après, les décisions, il les prenait ou il les prenait pas, voilà. Mais c'est vrai que ce n'était pas du tout les mêmes, la même population pénale avant de s'en prendre à un surveillant. Les détenus, ils réfléchissaient à deux fois. Maintenant, les mentalités ont changé.
Et vous écrivez même que depuis quelques temps, une nouvelle forme de violence est apparue, violence qui s'exerce à l'extérieur de la prison.
Exactement.
Expliquez.
Il y a beaucoup de surveillants qui ont des problèmes à l'extérieur, qui sont fait menacer et agresser. Donc, pour quelle raison, je ne sais pas. C'est inadmissible. Quoi.
Mais agressé par qui? Comment les retrouve-t-il? Puisque vous dites, vous donnez des surnoms pour que votre nom de famille n'apparaisse pas, pour que votre famille soit en toute sécurité.
Oui, mais tout se sait en prison. En prison, tout se sait. Et les détenus qui veulent retrouver un surveillant, c'est facile pour eux. Donc, il suffit de voir. Quand ils sortent de la prison, ils le suivent. Et puis après, ils vont où ils habitent. Et puis... ils font ce qu'ils ont à faire, mais bon, c'est inadmissible. Je veux dire, du moment que nous, sur une prison, on commence à être menacés, où est-ce qu'on va, quoi ?
Justement, dans la prison, je l'ai dit, personne ne s'appelle par son nom pour protéger la sécurité des familles. Est-ce que vous avez eu la tentation d'utiliser un pseudonyme pour votre livre ?
Alors, non, absolument pas, absolument pas. Moi, j'estime avoir fait un métier honorable, donc je n'ai rien à me reprocher et je marche la tête haute dehors, c'est clair.
Merci beaucoup Éric Pérez. Je rappelle que vous êtes ancien surveillant de prison et pas seulement. Vous êtes désormais à la retraite et surtout l'auteur de Maton et Fier de l'être. C'est un livre publié aux éditions Kéro.
Europe 1.
Dans quelques instants, tout à fait autre chose, notre demi-heure culturelle, également pleine de bonne humeur, qui va vous mettre en joie pour toute la semaine, avec un film, un livre, une expo choisie par nos experts, Mathieu Charrier, Diane Chenouda et Nicolas Carreau, remontés comme des coucous, et notre invité, l'humoriste Jarry, lui, c'est même pas qu'il est remonté, c'est qu'il est complètement perché.
19h27, nous sommes toujours en compagnie de Philippe Blondel jusqu'à 20h sur Europe 1. Place à la culture, Philippe.
La demi-heure culturelle de ce 18-20 avec Diane Chenouda, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Mathieu Charrier, bonsoir.
Bonsoir.
Nicolas Carreau, bonsoir.
Bonsoir.
Qui lève les yeux de son livre. Et notre invité Jarry, bonsoir Jarry.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous, je reconnais votre voix, on vous reconnaît parce que vous êtes un habitué de l'émission d'Arthur, Vendredi tout est permis. Vous le faites toujours?
Alors j'en fais beaucoup moins, surtout là je vais présenter une exceptionnelle Vendredi tout est Jarry le 29 mars.
Ah.
À 23h20.
D'accord, voilà. Vous tout seul?
Ouais, j'ai viré Arthur, je l'ai séquestré, je lui ai fait la misère et j'ai pris le pouvoir.
À la base, vous êtes humoriste, votre one-man show atypique tourné depuis 5 ans, et c'est pas un reproche, c'est un compliment, il faut pouvoir tourner avec le même spectacle pendant 5 ans. Mais voici le nouveau, le titre rappelle un groupe des années 80, est-ce que vous connaissez PIL, Public Image Limited? C'était le groupe de Johnny Rotten, le chanteur des Sex Pistols.
Ah oui.
Et ils avaient sorti un album qui s'appelait Album, un CD qui s'appelait CD, une cassette qui s'appelait Cassette. Et ils avaient fait de la promo et de la pub et il y avait écrit Publicité. Et
ah, génial.
Votre spectacle a un titre qui s'appelle Titre. C'est quand même juste fou. Pourquoi un titre comme ça?
Parce que souvent, il en faut un. Et,
super.
Et moi j'en avais une dizaine et j'avais pas envie de faire deux choix pour pas me briser le cœur.
Ouais.
Et titre parce que c'est un rendez-vous dans le spectacle à un moment donné avec les gens. C'est très particulier et c'est la grosse surprise du spectacle. Et en fait, on comprend à ce moment-là pourquoi titre.
Alors, je dois dire quelque chose à nos auditeurs et auditrices, c'est que cette interview elle-même est très particulière car vous n'avez montré le spectacle à personne.
À personne.
Et c'est la première interview que vous faites qui est consacrée. Alors, la question est vraiment simple. C'est quoi l'idée? Quelle est l'idée de ce spectacle?
J'avais envie de faire un spectacle qui soit plus proche de ce que je suis, loin de l'image qu'on peut avoir de moi de la télévision.
Ouais.
J'avais envie de parler de ce qui me touche dans la vie, ce qui me met aussi en colère. Parce que souvent, les gens dans la rue me disent « Ah, mais Jarry, vous semblez tellement sensible et tout. C'est vrai, on a l'impression que vous n'êtes pas un homme. »
Ah bah dis donc, ça c'est vrai. Dans une interview sur deux, vous pleurez.
Mais parce que je... Oui, mais...
Non, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, ça.
Mais parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il ne faut pas vivre avec ses émotions. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est bien parce qu'on ne montre pas nos émotions qu'aujourd'hui, la plupart des situations sont violentes.
J'ai bien compris. Je vous le reproche pas. Mais ne dites pas que le Jarry qu'on voit à la télé, c'est un faux Jarry.
Mais oui, parce
c'est
qu'on un fait vrai vivre des trucs incroyables. On me met dans un avion de chasse, je me prends 6G, comment voulez-vous pas pleurer? C'est comme s'il y a une grosse dame qui fait 6 poids votre corps, votre poids de corps qui s'assoit sur vous. Ça fait peur.
Non,
ou
une dame,
un monsieur d'ailleurs, oui, je vois pas pourquoi, je dis dame. Non, non.
Non, s'il y a des grosses dames qui nous écoutent, elles sont pas contentes.
Mais moi je les
ça.
Aime en plus.
D'accord.
Excuse-moi maman.
Donc qu'allez-vous raconter sur vous de personnel?
Je parle de mes enfants, Je parle de ma vision.
Vous avez deux jumeaux, je me trompe
oui,
pas.
Oui, j'ai un petit garçon.
Enfin,
une
deux jumeaux,
fille.
Pardon pour le pléonasme. Vous avez des jumeaux, il se trouve qu'ils sont deux.
J'adore ce pléonasme.
Donc je parle de ça, je parle aussi de quand j'ai découvert mon homosexualité. Je parle de plein de choses, des choses qui me font rire. J'avais envie aussi de parler de ma folie. Je suis très fier d'être fou et d'être habité en permanence.
Ah ben voilà, moi aussi je pensais que vous étiez fou.
Mais oui.
Donc
mais
c'est le vrai Jarry qui est fou, je me trompe pas.
Ah oui, non.
Comme Alfred du même nom.
Exactement. Dans la vie, je suis pire même, je pense.
C'est pas vrai.
On est une vingtaine à l'intérieur et chaque jour, il faut que je me batte pour pas que tout le monde sorte, quoi.
Coup de bol, vous soyez venu. Non, mais imaginez qu'il y en ait 19 qui veulent rester à la maison.
S'il y en a un, ça suffit.
Vous faites une négo.
Ah mais j'adore cette image.
Bah oui.
Je vous adore. De toute façon. Hein,
merci beaucoup. Bon alors qu'est-ce qu'il y a de drôle?
Comment?
Parce que quand vous en parlez, quand vous racontez, vous êtes très drôle, mais quand vous parlez du spectacle, ça a l'air d'être très grave. Il y a de la vanne quand même. Il y a mais
plein de choses.
On est là pour se marrer quand
évidemment,
même.
C'est je dirais que sur 1h40 de spectacle, il y a 1h20 d'humour et il y a 20 minutes de autre chose. J'avais pas envie de me définir que comme un humoriste, j'avais envie de faire un spectacle, donc quelque chose de spectaculaire avec tout ce que j'aime dans la vie, c'est-à-dire compter, raconter, rire, chanter, danser, peindre, faire des câlins.
Ah bon.
Vous peignez dans le spectacle?
Peut-être.
C'était une intervention de Diane Chenouda, vraiment que je ne regrette pas. Ça tombe vraiment bien que vous soyez là, Diane, parce que
non, mais
je
ça
pense
fait avancer,
que.
Exactement. Vous avez raison,
on avance. Alors, vous avez dit, j'ai quand même trouvé une interview de vous dans laquelle vous êtes livré l'air de rien au détour d'une phrase. Vous avez dit, je vais parler des femmes dans ce spectacle. Je les trouve incroyables. J'ai envie d'inverser les choses, d'être leur voix et de parler des mecs. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous racontez sur les mecs des femmes?
Mais souvent dans les spectacles d'humour, on se moque souvent des femmes. Et
mais des hommes, dans le spectacle d'humour, on se moque de tout le monde.
Ah, je trouve quand même que souvent c'est les femmes.
Bon
et moi, je trouve que les femmes sont incroyables.
Ouais.
Mais depuis la nuit des temps, elles ont dans l'histoire prouvé que la plupart des avancées, c'est les femmes. Et j'avais envie de leur rendre hommage dans ce spectacle. Et aussi rendre hommage à ma maman, qui est une femme qui est capable d'abattre un arbre et en même temps de me prendre dans ses bras, de me dire qu'elle m'aime. J'avais envie de rire des hommes.
D'accord.
Parce que les mecs souvent viennent me voir en me disant « Ouais, moi, c'est pas trop mon truc, tu vois,
ah
je t'aime
oui,
bien. »
Ils vous parlent comme ça, les mecs.
Ouais, ils me parlent comme ça.
Ils parlent tous comme ça, les mecs. Tout
ouais,
tout
c'est normal. Tout est bien connu.
Ouais.
Non, mais les mecs qui parlent comme ça, vous savez ce qu'ils font? Ils font les voix off dans les documentaires d'RMC Découverte. Vous avez remarqué?
Elle me plaît bien, moi, cette cabane. Je vais m'installer là.
Vous avez jamais vu les documentaires avec des trappeurs?
Oui, oui, oui.
Non?
On vous laisse
les
mécanos.
Les mécanos.
Comment? Oui, mais qui sont les mecs qui ont cette voix en vrai? Je me suis toujours demandé si avaient cette voix en vrai.
Spectacle de Jarry.
Ou s'ils se forçaient quand ils vous parlaient. Et donc, qu'est-ce que vous dites au nom des femmes sur les mecs, Jarry?
J'ai réussi à trouver la définition de ce qu'était un homme.
Ah, dites.
Un homme, c'est une femme ratée. Pour pas qu'ils s'en rendent compte, on lui a donné des balles. Aux chiens, on leur lance. Aux hommes, on leur accroche.
Waouh. Ah.
J'ai trouvé ça joli. Ou sinon, un homme, c'est une femme qui parle plus, mais qui s'écoute moins.
Pas mal.
Voilà. J'ai essayé de réfléchir parce que souvent on me dit « Ah, mais vous êtes différent ». Donc j'ai voulu savoir c'est quoi un homme en fait.
Ouais.
Qu'est-ce qui pourrait garantir aujourd'hui? Voilà, un homme, c'est quelqu'un qui sait bricoler, arracher de la moquette, planter de la pelouse, je ne sais pas. Je me suis interrogé sur toutes ces questions.
Mais c'est un bricoleur.
Et à chaque fois que j'ai cherché la définition d'un homme, il y a toujours une femme à côté. Et je trouve ça extraordinaire. Et moi, je les aime, ces femmes.
D'accord.
À la sortie de mon premier spectacle, je me souviens d'une dame qui est venue me voir, qui avait une quarantaine d'années. Elle m'a dit « Ah, c'est tellement dommage que vous n'aimiez pas les femmes ». Je lui ai dit « Madame, j'aime les femmes. Je ne leur fais pas l'amour, mais j'aime les femmes. Vous confondez tout.
Ah » ouais.
Et du coup, ça m'a donné aussi envie de dire « Femme, je vous aime ».
Mais vous avez failli vous marier en plus.
Oui,
avec
j'ai
une
fait
femme.
Oui.
Hein, pas cette tête.
Oui, non,
ça arrive à plein de gens très
mais
bien.
Non, parce que le mariage n'est autorisé qu'avec une femme aujourd'hui, religieux en tout cas.
Oui, oui, oui. Mais vous avez failli vous marier avec
oui.
une femme.
Oui, oui.
Donc vous avez connu la chair.
Eh bien, je l'ai pratiqué pendant foultitude d'années.
Exactement.
Je pense que c'était un échec. Hein. Non mais on sait quand une femme est heureuse, quand vous lui faites l'amour, elle vous dit merci, c'était génial, j'ai
ouais.
passé le plus beau jour de ma vie. Moi elle me disait Jarry, je suis pas lesbienne. Voilà donc ça m'a mis quand même un indice de me dire bon, je suis peut-être pas exactement au bon endroit.
Vous savez ce que fait la femme d'un journaliste après l'amour?
Non.
Elle va chercher son mari à l'aéroport.
Ça te fait rire que moi sur le plateau.
Bah oui,
pardon,
bah
oui évidemment, parce que
c'est
les deux.
C'est que pour les reporters de guerre. Ça.
Caro, mais non, parce que les deux, Caro et Charrier, ils sont journalistes. Donc ça les fait pas marrer. Il faut savoir rire de soi-même, les amis.
Franchement, je préfère les blagues de Jarry.
Bah, moi aussi. Le dossier de presse n'y va pas de main morte, parce qu'il y a un dossier de presse quand même qui a été constitué, Jarry. Chaque représentation, est-il écrit, sera unique.
Complètement.
Mais comment vous avez... Ça ne sera pas la même chose chaque soir. Vous allez faire ici quelque chose que vous ne ferez pas là.
Oui, il y a une vingtaine de minutes où j'écris à chaque fois, en fonction de l'endroit où je me trouve, du nom de la commune, du nombre d'habitants, du nombre de décès, de naissances, etc. J'ai voulu que le spectacle, chaque soir, soit différent parce que les gens font l'effort de venir me voir. Je dois aussi m'intéresser à ceux qui sont dans ma salle. Et c'est génial parce que j'apprends plein de choses sur la France. Plein de choses sur l'histoire de la France. Puis les gens sont très chauvins, donc ils sont fiers de là où ils habitent.
Alors dis donc, il faut que je parle de la tournée, parce qu'elle est énorme, elle a démarré le 1er mars. Vous serez mercredi et jeudi à Marom. C'est où Marom? On dirait presque du Verlan.
C'est
Marom. Il faut que j'appelle Marom. C'est où?
C'est en France.
Oui.
C'est une très jolie ville et je suis très très heureux d'y aller.
C'est dans quel département?
Oh, c'est bon, département. Aujourd'hui, on ne parle plus de département.
Moi, je vais vous le dire. C'est si, dans c'est dans le 76.
76.
C'est la Seine-Maritime. C'est à côté de Rouen.
De Rouen,
Dieu. Mais je ne saurais pas dire où c'est. Et alors, ce que je trouve d'absolument formidable, c'est que vous aviez dit une fois, moi, j'aimerais jouer dans les petits villages.
Oui.
Et vous avez tenu parole parce qu'il y a un nombre de noms de villes dont j'ignorais totalement l'existence. Il y a Marom, il y a Aubevoye, il y a Lalonde-les-Morts, il y a Differdange, il y a Bétoncourt, il y a Saint-Jean-sur-Veille, il y a Amberieu-en-Bugey, ça je connais, Bruay-la-Buissière, Saint-Thibaud-des-Vignes, il y a Gland en Suisse. Ça, c'est connu.
Ça, c'est un signe de la vie.
Oui, voilà. Ça suivra le Cap d'Agde. Oui. Les plus petites salles que vous allez faire, c'est des salles de combien de spectateurs?
Les plus petites, 250. Pour moi, c'est important parce que je viens d'un petit village de 600 habitants et à chaque fois, je me disais, les artistes ne viennent pas me voir.
Ouais.
Et du coup, j'étais obligé de faire 40 minutes de voiture avec ma famille pour aller dans une grande ville. Donc là, j'ai dit, partout où on veut de moi, je viendrai.
Là, vous rodez le spectacle?
Oui, il est déjà rodé, il est prêt, il est en place.
D'accord. Et ensuite, vous allez faire les grandes villes?
Oui.
Alors, je pose la question en connaissant la réponse. Octobre 2019, à Paris, à l'Européen, combien de soirs? Vous savez ou pas?
Oui, 4 soirs par semaine.
Et ensuite, à partir du 18 janvier 2020, Nantes, Limoges, Tours, Rennes, Angers, Toulouse, Lyon, ça se termine à Maubeuge le 17 avril 2020. Je vous dis, moi, ça me déprimerait de savoir ce que je vais faire le 17 avril 2020.
Mais oui, mais en même temps, on prévoit longtemps à l'avance. Comme ça, ça permet aux gens de s'organiser. Et puis surtout parce que les places partent vite. Et je tiens à remercier vraiment les gens d'être proches de moi et de faire partie de mon chemin de vie.
Alors moi, il y a une chose que je sais, c'est ce que je vais faire dans 3 minutes. Je serai avec Charrier, Caro et Diane Chénouda et Jarry. À tout de suite sur Europe.
Bon début de soirée avec Europe 1. Vous écoutez Philippe Mandel jusqu'à 20h.
La suite de cette demi-heure culturelle du 18-20 avec Diane Chénouda, Mathieu Charrier, Nicolas Caro et Jarry, qui est évidemment toujours là, il n'est pas parti. Dans le précédent spectacle, vous étiez dans la salle d'attente de Pôle emploi. Et cette fois, si j'ai bien compris, vous êtes chez vous.
Exactement.
Chez vous, dans quelle pièce?
Je suis...
Parce que moi, je ne l'ai pas vu.
Alors, je ne suis pas dans une pièce.
Ah.
Je suis chez
vous
moi.
Êtes quoi, vous êtes devant la porte d'entrée, vous ne trouvez pas les clés.
Il est dans sa piscine.
Ouais. Dans le jardin.
Il est dans son jacuzzi.
Je suis, je dirais, dans mon espace intime. Est-ce qu'on peut, on doit le définir par un lieu connu?
Est-ce que ça se tient en deux lettres? J'espère pas. C'est quoi votre espace intime?
C'est mon moi intérieur, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on connaît moins. Je parle de ma maman, je parle de mes frères, je parle de mes enfants, je parle de...
Non mais moi je parlais visuellement, on voit quoi? Là c'était une salle d'attente de Pôle emploi.
Oui, alors là...
Là, qu'est-ce qu'on voit? Vous voulez pas le dire?
Non. Allez, parce que... Si, je peux vous le dire, mais ça va pas. On voit ce que j'ai dans la tête.
Mon Dieu.
Ouh là là.
Ouais,
c'est bien rangé.
C'est très joli. Qui a dit mon Dieu?
Pas moi.
Le
je crois que c'est
Caro.
C'est Philippe.
Non, c'est Mathieu Charrier.
Non, c'est
moi. À moins que ce soit Nicolas Caro. En tout cas, c'est un mec qui a dit mon Dieu.
Ouais,
bref, moi j'ai dit, est-ce que c'est bien rangé? C'est comment dans votre tête en vrai?
En fait, quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas si j'avais des choses à raconter sur le deuxième, mais en fait, ça a été assez rapide.
Ouais.
Donc, je pense que c'est des choses que j'avais besoin de me séparer. Donc oui, c'est plutôt bien rangé. C'est très clair.
D'accord. En gros, c'est braderie, quoi. Il y a du bordel, on s'en sépare.
Exactement.
C'est beau.
Bah, c'est beau, j'enchaînais, quoi, tu vois. Alors vous, Mathieu Charrier, je ne sais pas ce qui me prend de vous tutoyer alors qu'on se connaît à peine. Ce soir, c'est le film « Damien veut changer le monde » que vous nous conseillez.
Oui, porté par Franck Gastambide qui, après La Surface de réparation, je ne sais pas si vous l'aviez vu, prouve une nouvelle fois qu'il n'est pas juste un acteur et réalisateur de comédie potache. Alors Damien, Franck Gastambide, donc, est pion dans une école. Un jour, il se rend compte que l'un des mômes, s'appelle Bazad, va être expulsé parce que lui et sa maman n'ont pas de papier. Il décide donc, figurez-vous, de reconnaître Bazad, de faire croire aux autorités qu'il est son père biologique. Les papiers sont signés, au passage on comprend bien qu'il tombe sous le charme de la maman. Et le lendemain, ce sont des dizaines de jeunes mères sans papiers qui l'attendent en bas de chez lui parce qu'elles veulent, elles aussi, qu'ils reconnaissent leur enfant. Damien va alors convaincre certains de ses amis de se lancer et monter une grande opération reconnaissance de paternité. Sauf qu'évidemment, c'est interdit.
Je suis un peu merdé avec un gosse. Mais c'est quoi du...
Ça, t'es un peu merdé avec un gosse, qu'est-ce que t'as foutu?
C'est un gosse avec sa maman qui vont être conduits à la frontière, tu comprends?
Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était grave. Je veux juste aider, moi. C'est pas permis, ça?
Si tu veux nous aider, il faut reconnaître Bassad.
Donc vous reconnaissez être le père de Bassad?
Oui.
Ça y est, c'est bon, chérie. C'est fait.
Merci. Bonjour.
Allô, comment est-ce que tu as fait? Il faut que tu nous aides.
On veut la même chose que Bassad et sa maman, monsieur.
On va trouver une solution.
Attends, comment ça, on va trouver une solution?
Il faut juste qu'on se bouge le cul et qu'on trouve notre père.
C'est tout ce que vous avez trouvé pour vous taper des meufs?
Voilà, c'est tout ce que vous avez trouvé pour vous taper des meufs. Alors bien sûr, ça va tourner au grand n'importe quoi, cette appellation reconnaissance de paternité massive.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film, Mathieu?
Alors, derrière la comédie, déjà qui est assez originale dans le scénario, vous savez, on en voit beaucoup de comédies françaises et c'est rare qu'on voit des scénarios qu'on n'a pas l'impression d'avoir déjà vu des mille fois. Derrière cette comédie, il y a beaucoup de questions sociétales qui sont abordées, et notamment le fameux délit de solidarité dont on parle beaucoup dans l'actualité. Est-ce qu'on doit condamner un citoyen parce qu'il a aidé une personne en situation irrégulière? Écoutez Franck Gastambide et le réalisateur Xavier de Chaudens.
Ce qui est bouleversant pour moi, c'est que je suis beaucoup plus habitué aux comédies à gags, comme on dit, des comédies plus franches, quoi. C'est-à-dire que là, les gens viennent te prendre dans les bras en larmes à la fin de la projection. C'est quelque chose que je connais pas, que j'ai jamais vécu. Ça me touche beaucoup. C'est la force de ce qu'on appelle la comédie sociale. Bah, ça permet, sous couvert du ton de la comédie, d'intéresser un maximum de gens.
Après, effectivement, plus on écrit le film, et plus on s'est rendu compte que, oui, ça parlait du délit de solidarité, qu'il y avait Cédric Héroux qui faisait traverser les migrants à la frontière italienne et française. Plein d'autres exemples, et tous les jours, ça tombait, même pendant le tournage, et on rappelle souvent, voilà, il le dit, Damien, dans le film, il y a 20 000 enfants de sans-papiers qui sont scolarisés aujourd'hui en France, et c'est absurde, délit de solidarité, de quoi on parle?
Il paraît que même le mot est un peu étrange quand même. Donc dans ce film, en plus de nous faire rire, il a le mérite de nous faire réfléchir, de nous ouvrir les yeux sur la situation de ces 20 000 enfants dont parlait le réalisateur. Et puis surtout de nous poser la question, qu'est-ce que nous, on aurait fait? Est-ce qu'on les aurait laissés dans la rue, être expulsés, ou est-ce qu'on aurait essayé de changer les choses? Ça s'appelle donc « Damien veut changer le monde », signé Xavier de Chaudens avec Franck Gastambide. Vraiment, c'est un film familial, vous pouvez y aller en famille.
Jarry, et vous êtes client de ce genre de film?
Oui, parce que pour être honnête, avant d'arriver, vous m'avez dit qu'est-ce que ça vaut, j'ai envie d'aller le voir.
Complètement, et puis en plus j'adore tous les acteurs, Franck, il y a aussi Camille Lelouch dedans, il y a Youssef aussi, qui sont des gens qui me font énormément rire. Et moi je trouve que quand l'humour sert comme ça la solidarité et permet de faire évoluer les débats, et peut-être de changer les mentalités sur cette hypocrisie qu'on a, qui concerne les enfants sans papier, mais aussi les enfants nés de GPA, etc. et j'en passe. Donc moi je dis banco, il faut les encourager.
Et où est-ce que vous en êtes de votre propre film à vous?
Alors, le film est en V3, version 3
du scénario.
Du scénario, et j'ai hâte de commencer à rentrer en production.
Alors, je n'ai pas le droit de le dire, mais je connais le pitch, et je peux vous dire que ce n'est pas une histoire comme les autres.
Et pourquoi on n'a pas le droit de le dire?
Parce que c'est secret.
Allez, parce que c'est secret.
Un petit indice.
Faites-moi une blague et je vous...
Alors, c'est Toto.
Non, alors, un mot de fiction, parce que vous êtes également dans la fiction événement lundi en prime time sur TF1. Pardon, c'est une série de 8 épisodes de 52 minutes, ça s'appelle Les Bracelets Rouges, et c'est consacré à des enfants malades, tous ensemble dans un hôpital. Dit comme ça, ça a l'air terrifiant, et pourtant ça avait cartonné la saison passée, au point qu'ils en font une seconde saison. Qu'est-ce qui vous a plu? Pourquoi vous avez dit oui?
J'aimais le pari déjà, d'abord de parler de la maladie chez les enfants, qui est un sujet en prime time qu'on n'aborde jamais, tellement on a peur que ce soit angoissant. Je trouvais que les histoires étaient plutôt bien ficelées. Ouais. Et quand on m'a proposé ce rôle de prof de théâtre dans la série, d'utiliser le théâtre comme moyen de dédramatisation, comme c'est quelque chose que je connais et que j'avais traversé quelques années auparavant, et j'ai été surpris en plus de tourner avec des vrais enfants malades dans les scènes, et ça c'est extraordinaire. Parce qu'à un moment donné, ça va au-delà de la comédie, ça va au-delà du jeu. Et je trouve encore une fois qu'on dédramatise souvent, c'est quelque chose d'angoissant quand on parle d'un cancer chez l'enfant.
Bien sûr.
Et là, de pouvoir le conter, le raconter, de voir aussi les différents acteurs qu'il y a autour de la maladie et de comment est-ce qu'on peut vivre chaque jour. J'étais très fier d'être sur cette série, très fier.
Ça avait démarré comme ça, il y avait les deux héros, c'était deux garçons en fauteuil roulant, ils s'appellent Thomas et Clément, ils sont chauves tous les deux à cause du cancer et du traitement, et Thomas devait se faire amputer d'une jambe, et la veille, ils ont invité tout le monde pour faire une fête à la jambe, et c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que c'est vraiment passé comme ça, c'est un type, ça vient d'Espagne, c'est un type qui est un espagnol qui a écrit ce livre, et tout ça est authentique, mais je ne savais pas que vous tourniez avec des enfants malades, et ils avaient quel degré d'énergie, quel degré de joyeuseté, si j'ose dire.
Alors, ils étaient d'abord super contents de sortir de leur chambre d'hôpital et de pouvoir venir participer. En plus, on a basé, en tout cas, mes scènes beaucoup sur l'improvisation. Ouais. Et moi, j'avais vraiment le rôle de coach d'impro avec eux. Et à partir du moment où on leur dit « vous avez la liberté », il y a des choses qu'on ne peut pas écrire. Je me souviens d'une scène où je leur dis « je vous demande de laisser, de venir et d'oublier un petit peu votre situation et de vous amuser ». Et je me souviens de cette jeune fille qui me regarde et qui me dit « ouais, mais monsieur, je ne peux pas laisser ma maladie à la porte ». Et ça, c'est des moments d'une telle justesse que c'est extraordinaire de pouvoir les vivre. Et deux minutes après, je faisais jouer le rôle d'une prostituée, elle rigolait et c'était génial.
D'accord.
Pouvoir être quelqu'un d'autre pendant quelques minutes au milieu d'un traitement, c'est une soupape.
Vous ne serez pas dans tous les épisodes ?
Je suis dans tous les épisodes de la saison 2.
D'accord. Ah, je croyais que vous aviez tourné que 3 minutes.
Non, mais je fais que...
Ah, c'est une façon de parler.
Oui, je fais que 2-3 minutes d'apparition par épisode.
D'accord, votre modestie vous perdra. Jarry avec nous sur Europe. On se retrouve tout de suite après pour parler littérature et pour parler d'une grande exposition.
Il est 19h47, votre grand journal du soir touche à sa fin sur Europe 1. On va continuer à parler culture avec vous, Philippe Bandel, vos chroniqueurs et votre invité.
La demi-heure culturelle de ce 18-20, suite et fin, avec Nicolas Caro, Mathieu Charrier, Diane Chenouda et notre invité Jarry. Et pendant la mini-pause, Jarry, vous m'avez dit, je me suis planté sur ma phrase. Allez-y, qu'est-ce qu'il fallait dire ? Quel était votre texte ?
Voilà,
ça, c'est le plaisir d'être avec des gens qui écrivent eux-mêmes leur texte.
Mais la bonne définition, c'est qu'un homme, c'est une femme qui parle moins, mais qui s'écoute plus.
Et voilà, oui, ça paraît plus logique quand même. Hein.
Voilà. Et là, j'aurais aimé des applaudissements, mais non.
On va les rajouter. Tout sera ajouté en post-prod. Nicolas Caro,
oui.
On va parler de livres.
Oui.
Et cette semaine, vous nous donnez un drôle de cours de grammaire.
En fait, c'est le livre d'un psychopathe, d'un tordu, Julien Soulier, l'auteur, est un fanatique du latin, du grec ancien. Son hobby, c'est de faire des dictées, c'est vrai. Malade mental, mais drôle. Il signe « Par humour du français » à la librairie Vuibert. « Découvrir un mot nouveau, dit-il, une orthographe bizarre, une règle surprenante m'a toujours fait l'effet d'un Saint-Estèphe millésimé sur un amateur de bon vin. » C'est un livre conçu pour nous faire aimer l'orthographe et les règles d'accord. Et c'est vrai que son enthousiasme est assez contagieux.
Ah non, j'ai envie de savoir comment et pourquoi, par exemple.
Par exemple, il nous parle de l'étymologie. Il compare les mots aux humains. Et l'étymologie, c'est l'étude des ancêtres et la mère de l'orthographe. Donc, et oui, si vous savez quelle est la racine d'un mot, vous comprenez pourquoi il s'écrit comme il s'écrit. Étymologie, par exemple, ne prend pas de H parce que ça vient d'étumo, E-T-U-M-O, qui veut dire vrai en grec. Il évoque aussi les doublets étymologiques des mots qui viennent du même ancêtre mais ont pris des sens différents, comme potionem, qui veut dire boisson, mais qui a donné aussi poison, qui est une forme de boisson un peu spéciale. Voilà pourquoi. Maintenant, Philippe, vous pouvez me lire cette phrase ?
Alors j'y vais, je me lance. Le dompteur et le sculpteur se damneraient en fait pour du persil.
Voilà, merci. Eh bien, Julien Soulier a calculé qu'il y avait 32 prononciations possibles de cette phrase en fonction de la prononciation ou non des consonnes muettes de chacun de ces mots. Alors normalement, si on est puriste, il n'y a qu'une seule façon de la prononcer. En passant sous silence les consonnes muettes, ça donne « le dompteur et le sculpteur se damneraient en fait pour du persil ». Il explique
du
aussi...
Du persil, c'est moche.
Eh bien oui, ben, ça se dit pas normalement.
En fait,
il explique...
Bizarre,
et en fait aussi, moi, Jarry, vous diriez comment vous ?
Le dompteur et le sculpteur se damneraient en fait pour du persil.
Voilà, par exemple.
Nul, aussi nul que moi.
Il explique aussi pourquoi justement les mots français sont blindés de consonnes muettes. Pourquoi sont-elles là ? À cause de leur étymologie encore. En fait, elles ont disparu, puis sont revenues et ont disparu encore. Au Moyen-Âge, elles étaient toutes prononcées. Plus maintenant. Il s'intéresse aussi aux emprunts étrangers comme les anglicismes qui débarquent, mais il explique aussi qu'une bonne part de vieux anglicismes ont été francisés. Packet boat, par exemple, c'est devenu paquebot.
C'est pas vrai.
Riding coat, redingote. Gasoil, gazol, ça on connaissait, ouais. Etc. Il passe tout en revue. Les couleurs, l'accord des nombres, les accents graves, aigus, circonflexes. Il va même jusqu'à l'imparfait du subjonctif, wow. Mais toujours de manière ludique et drôle. C'est pas non plus hilarant, hein, mais on ne s'ennuie pas une seconde. Et on apprend l'air de rien pour tous ceux qui aiment l'orthographe et tous ceux qui détestent.
En gros, c'est pour tout le monde. Voilà. Julien Soulier, ça s'appelle « Par humour du français ». Merci beaucoup, Nicolas. Redites l'éditeur.
C'est la librairie Vuibert.
Ça vous tente, Jarry, ça ?
Ah, mais complètement.
Ah, oui.
On a l'air de passer des soirées absolument délicieuses.
Ici, on se poil. Et encore, t'as pas vu la fin.
Tenez.
Van Gogh, en son et lumière.
Oui.
C'est une expérience plus qu'une exposition. Mmh. Dites-nous, vous nous dites, Diane, chez nous, d'arracher.
Oui, oui, oui. Eh bien, écoutez, c'est une expérience, effectivement, à vivre. Alors, à la fois aux Carrières des Baux de Provence et à l'Atelier des Lumières à Paris. Alors, deux lieux pour la même expo, me direz-vous, comment est-ce possible ?
Ah oui, on peut pas être ici et là.
Ah, c'est un peu surréaliste, mais bah oui, si, c'est possible. Une exposition entièrement numérique, immersive, qui nous en met plein les yeux et les oreilles. Alors, les tournesols, évidemment, vous connaissez.
Oui.
Les iris, la nuit étoilée.
Oui.
Comme vous ne les avez jamais vus, Philippe.
Ouais, mais...
et Jarry. Tous les chefs-d'œuvre du génie hollandais sont là. Sauf que ce sont des images, des reproductions de 500 tableaux de Van Gogh qui s'animent ouais. au rythme d'une bande-son qui colle parfaitement à chaque peinture.
Non, mais attendez, Diane, je vous pose la question que tout le monde se pose. Oui. Que vient faire Janis Joplin ici?
Alors, justement, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que Janis Joplin... Eh bien, elle intervient sur un des tableaux.
Ah,
voilà. Parce qu'il y a une bande-son qui colle ouais. parfaitement au tableau qui défile.
Ouais.
On va voir ça tout à l'heure. Mais
d'accord.
d'abord, je voudrais vous expliquer la nouvelle technologie qui consiste à effectivement projeter comme ça des milliers d'images qui sont en fait des reproductions des tableaux de Van Gogh. Explication avec Michael Cousigou, qui est le directeur de l'atelier des Lumières.
Ce sont des photographies en très haute définition des œuvres d'art. En fait, on fait rentrer ces images à l'intérieur d'un logiciel. Et donc, il y a un énorme travail de composition, d'animation de ces différents tableaux. Et donc, quand on pousse les portes de l'atelier des Lumières, on a vraiment l'impression d'être à l'intérieur des tableaux.
Et du coup, ça permet, j'imagine, Diane, de voir des détails qu'on ne verrait pas forcément dans les musées.
Absolument, puisque c'est évidemment l'intérêt de la technologie. On est vraiment... comme dans un tableau de Van Gogh, au cœur de sa peinture. Écoutez.
Là, on va zoomer sur certaines parties. On va voir le fond de toile, on va voir l'empattement, on va voir toute la matière, le relief de la toile. Et puis, on va voir évidemment aussi les coups de pinceau, les coups de brosse, très énergiques de Vincent Van Gogh.
Images diffusées par 140 vidéoprojecteurs sur une musique qui donc nous transporte dans chaque tableau, comme je le disais. Comme effectivement, alors Janis Joplin, on y vient.
Ouais.
Par exemple, pour ce tableau, l'un des plus célèbres de Van Gogh qui s'appelle Le Summer au soleil couchant, c'est absolument magnifique. Écoutez.
On a fait le choix de Janis Joplin avec une espèce d'explosion musicale qui correspond vraiment à l'explosion de ce tableau où on est happé par ce soleil.
Autre exemple.
Les quatre saisons, c'est sur évidemment toute la période provençale où là on a effectivement l'impression de voir ces paysages, d'être dans ces paysages, d'entendre le Mistral, d'être vraiment dans le sud de la France avec Vincent Van Gogh.
Oui, Philippe, c'est vraiment un voyage sensoriel ouais. dans l'univers de Van Gogh qui attire quand même 4000 visiteurs par jour, en tout cas à l'Atelier des Lumières à Paris. Les gens viennent en famille, entre amis, des gens beaucoup plus âgés, tous sont fascinés dès qu'ils pénètrent dans cette cathédrale d'images, du sol au plafond, par cette immersion dans les tableaux de Van Gogh. On écoute un peu de ce public.
Avec la musique et puis le mouvement, c'est quand même assez envoûtant.
C'est magnifique.
Bah, j'aime bien être plongée comme ça, il y a une certaine féerie en fin de compte.
Et puis les enfants, quand je leur ai dit on va au musée, ils disent oh non. Et puis là, ils viennent de rentrer, ils disent c'est génial.
C'est une expérience de danser sur la musique.
Ah, absolument, c'est vraiment tout le corps qui répond. C'est pas juste les yeux, mais le mouvement de la peinture, la musique qui accompagne, c'est vraiment pour tous les sens.
Mais oui, ça fait vraiment des choses aux gens. On voit des enfants rêvasser par terre, d'autres qui dansent devant l'étoile. On vient de l'entendre, même des adultes. Hein. La plupart des gens sont assis par terre en contemplation ou déambulent devant les images. Beaucoup, évidemment, prennent des photos et des vidéos. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais... vraiment, certains viennent avec des appareils hyper sophistiqués, c'est un truc de fou, comme s'ils venaient observer la Lune, voyez, ou plutôt la planète Mars, je ne sais pas, et qui leur permettent donc de capter ces images, ces couleurs en mouvement.
En tout cas, c'est tentant. Merci beaucoup, Diane. Van Gogh s'appelle La Nuit étoilée, je le rappelle. C'est jusqu'au 31 décembre à l'Atelier des Lumières, également aux Carrières des Baux-de-Provence, jusqu'au 5 janvier 2020. C'est un peu juste avant la fin du spectacle, Jarry. Vous faites attention à ce que vous dites à la presse ou pas ?
Pas du tout.
Parce que parfois, au détour d'une phrase, on dit un truc fou. Vous avez participé à l'aventure Robinson sur TF1.
Oui.
Vous en avez bavé.
Ah ouais, j'en ai bavé parce que j'avais vu les émissions précédentes et tout se passait au soleil. Ouais. J'étais loin de m'imaginer que j'allais me prendre 5 jours d'ouragan.
C'est une émission d'aventure, de survie. Et ensuite, vous avez raconté à Télé Loisirs, le 22 février, juste après le tournage, j'ai appelé toutes les personnes qui travaillent avec moi pour leur dire que je serais dorénavant moins dur dans le quotidien.
Oui.
Et je me dis, ah bon, mais il est dur dans le quotidien. Je voyais comme un mec très cool, moi.
Non, non, je suis quelqu'un d'exigeant, c'est-à-dire j'aime bien que les choses soient faites en temps et en heure et j'aime pas l'à peu près.
Ah oui.
Et en fait, je me suis rendu compte que pendant 5 jours, le fait de ne pas avoir de téléphone, de ne pas savoir quelle heure il est, je me suis laissé porter et je l'ai bien vécu. C'est-à-dire que je ne maîtrisais rien et pourtant, ça n'a pas été source d'angoisse. Donc j'ai eu envie de dire aux gens, je vais être plus calme. Ça a duré 2 semaines. Je m'excuse à nouveau.
Merci de votre franchise. Et vous avez remarqué qu'ici, c'était cadré, orthodoxe, normé.
Ici, c'est impressionnant.
Enfin. Jamais ça déborde. Merci Mathieu
non,
Charrier.
Jamais.
Merci Diane Chenouda. Merci Nicolas Carreau.
Merci.
Et merci surtout Jarry à
merci
vous d'être
à vous.
Venu avec nous. Je rappelle encore le nouveau spectacle. Il s'appelle Titre. C'est le titre. C'est en tournée dans toute la France jusqu'en avril 2020.
Europe 1.
Et dans un instant, sur Europe, vous restez avec nous, on va retrouver Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. Salut Lionel.
Salut Philippe.
Quel programme ?
Trois matchs ce soir, Monaco-Bordeaux, Dijon-Reims, Amiens-Nîmes. Ouais. On va revenir sur le match nul entre Strasbourg et Lyon.
Oui.
Et évidemment, l'incontournable, l'inévitable élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
Vous êtes dans quel état ? Vous êtes sous antidépresseur ? Parce qu'il y a des gens qui sont, ils ont plus de vie.
Non, je me sens plutôt bien. En revanche, en effet, on a créé une pathologie là. Avec, c'est un véritable psychodrame pour beaucoup de supporters. On va en parler, notamment la réaction de Patrice Evra, ancien partenaire de Jérôme Rotten, qui veut frapper son ancien collègue.
À ce point ?
À ce point.
Ouh là,
je vous expliquerai
là.
Tout à l'heure.
Ouh là là, merci Lionel. Nous, on se retrouve demain à 18h. Salut Marlène.
Salut Philippe.
Bonne soirée à l'écoute d'Europe 1.